I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Jeu, c'est l'émission où on vous résume toute l'actualité des jeux vidéo, on parle de consoles, de PC, de mobile, de toute l'industrie avec, j'espère, de la bonne humeur et de l'analyse en même temps pour vous aider à comprendre ce qui s'y passe. Je suis Patrick Béja, de retour après de courtes, trop courtes vacances ou semi-vacances. Quand on est indépendant, on travaille quand même pendant les vacances, mais c'est un plaisir, c'est pour ça qu'on le fait. Et donc, on a beaucoup de choses à couvrir. Puisque ça fait un petit mois qu'on n'a pas fait d'émission. On a la Gamescom, bien sûr, qui est en cours en ce moment. Ça a quand même commencé, donc on a la plupart des sujets importants. On a les rumeurs sur la prochaine console de Microsoft qu'on veut évoquer également, des chiffres de vente de la Switch qui nous amènent à certaines réflexions, certains jeux auxquels on a joué pendant l'été, je vous laisse la surprise, Evo, QuakeCon, etc. Il y a plein de choses qu'on va détailler aujourd'hui. Et pour tout ça, j'ai l'immense plaisir d'accueillir pour la première fois dans l'émission Chloé Wathier du Figaro. Comment ça va, Chloé ?
Bah écoute, ça va plutôt bien, d'autant que n'étant pas indépendante, j'ai pu prendre de grosses vacances. Donc, tout, même si retour au turbin depuis début août, mais écoute, tout va extrêmement bien.
D'accord,
et tu as pu profiter. Et je suis ravie de enfin pouvoir participer à cette émission.
Oui, c'est vrai que ça fait un moment qu'on essaye de se... et les emplois du temps se sont jamais...
Les emplois du temps ne calquent jamais.
C'est ça, mais enfin, c'est bon. Et donc, tu vas pouvoir nous parler de tous les des jeux auxquels tu as joué sur ta Switch pendant les vacances, ça va être très bien.
Oui.
Et donc, je disais, j'ai l'immense plaisir de recevoir Chloé. J'ai aussi, peut-être pas l'immense plaisir, mais le plaisir, en tout cas, de recevoir Aymeric Lallet, qui nous rejoint également. Aymeric de IGN, enfin de mille endroits différents. Comment ça va, Aymeric ?
Écoute, ça va plutôt bien, oui. Pas de souci. Bah, écoute, oui, moi aussi, je suis encore en vacances d'ailleurs, et j'ai du mal à y rester, puisque le boulot m'appelle sans cesse sur jeuxvideo.com, IGN. Et Millennium, voilà.
D'accord, bon bah écoute, je t'admire de prendre un petit peu de temps pour venir parler avec nous au milieu
toujours
de toute
plaisir.
Cette activité. Toi aussi, tu as été sur ta Switch, d'après ce que j'ai compris, c'est la console de l'été du coup.
Ah, c'est la console de tout le monde, on va en parler, mais oui, effectivement, c'est tellement facile à utiliser. Le truc qui est marrant avec cette machine, c'est qu'au début, quand même, personne n'y croyait et qu'aujourd'hui, tout le monde est dessus. C'est quand même assez extraordinaire.
Bah, on va en parler justement tout à l'heure. Moi aussi, j'étais sur ma Switch, donc c'est effectivement la console de tout le monde. Mais avant ça, on va évoquer ce qui s'est passé à la Gamescom. Il y a quand même eu des choses intéressantes qui se sont passées là-bas, et notamment l'annonce des nouvelles cartes graphiques Nvidia qui sont vraiment nouvelles et différentes puisque le nom de la série a été changé. On n'est plus en train de parler de GTX, mais de RTX. Donc forcément, quand c'est un nom différent, les consoles. Les cartes sont meilleures, évidemment. Donc on a la série RTX, c'est 2080 et 2080 Ti. Alors évidemment, elles sont plus performantes que les séries 1000 quelque chose. Ça va sans dire. Mais la grosse feature, la grosse fonctionnalité qu'ils mettent en avant, c'est la possibilité de faire du ray tracing en temps réel. Et qu'est-ce que c'est le ray tracing ? Vous êtes jeune, peut-être dans l'audience. Aymeric, je sais pas quel âge tu as.
Je sais plus.
42 ans quand même, bon, bah, toi t'es un vieux, t'es comme
moi. Je reste très jeune.
Ouais. Mais Chloé, je crois que t'es un petit peu plus jeune, non ?
Ouais, 33.
D'accord, 33. Donc toi, le ray tracing, ça te parle peut-être pas forcément parce que c'était un truc qui était le Graal de du rendu 3D dans les années 90. Et c'est une méthode de calcul qui regarde chaque pixel affiché dans l'image et qui va calculer les rayons de lumière qui vont partir des sources lumineuses et se refléter sur chaque surface pour arriver jusqu'à la caméra. Ce qui veut dire que les designers qui vont faire le moteur graphique et faire les graphismes du jeu n'ont pas besoin d'utiliser en fait ce qu'ils faisaient jusqu'à maintenant, c'est-à-dire des astuces de calcul pour simuler des ombres, pour simuler ou alors simuler une partie des ombres, mais ça ne calcule que les ombres, la lumière ne va pas se refléter de la même manière sur les autres surfaces, ou mettre des voxels, toutes sortes de d'astuces et d'outils graphiques pour créer des reliefs, des textures sur les objets en 3D. Et donc là, tout est calculé à partir des sources lumineuses directement par les rayons de lumière, ce qui fait que les rendus sont beaucoup plus réalistes, en particulier sur les réflexions, sur les effets de lumière, justement. Et donc, au-delà de l'outil marketing, qui est clairement un outil marketing, il y a quand même une utilité à cette fonctionnalité, une fois qu'elle sera implémentée, ce qui risque de prendre un tout petit peu de temps, mais il y a quand même une utilité à cette fonctionnalité et qui devrait améliorer les graphismes. Du coup, je vous pose la question à tous les deux. Est-ce que vous allez vous jeter sur la RTX 2080 Ti Founders Edition à 1299 euros quand elle sortira à la fin septembre, ou est-ce que vous allez attendre ?
Oh bah, il faut évidemment attendre sur ce genre de truc, hein, la question se pose pas, d'autant que la technologie ray tracing est très peu utilisée pour l'instant dans les jeux, voire pas du tout. Donc comme tu le disais, il va falloir un petit peu de temps avant que ce soit vraiment rentable. Donc moi je dirais non. La bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, d'accord, la technologie progresse, mais surtout derrière, ça va permettre aux autres cartes qui sont déjà très très bonnes, donc la série des 1000, de perdre un petit peu en prix. Et auquel cas de nous permettre d'avoir quand même de super graphismes en 4K pour un prix modique, même si ça va mettre un peu de temps à baisser quand même. Ça va pas baisser.
Moi, ma technique, c'est plutôt d'attendre la chute de la 2070 dans quelques mois et peut-être d'essayer de tirer vers la 2070. Comme ça, j'aurai un truc qui va me tenir plusieurs années. Je suis encore sur une 970, moi. Donc,
Après, la 2070, c'est pas encore en précommande.
Non, c'est sûr. Moi, je parle de genre mars 2019, tu vois. On attend vraiment un moment, quoi. Ça.
Mais entre-temps, t'as quand même, tu vas pouvoir te prendre une 1080 Ti à un prix tout à fait décent.
Ah non,
quoi.
Mais non. C'est pas du tout ma méthode. Je prends plutôt les cartes moyennes de gamme de la dernière série que les cartes haut de gamme de la série d'avant, parce que ça chauffe plus les cartes haut de gamme, parce qu'ils atteignent ces performances par des vitesses plus élevées, vitesse d'horloge plus élevée, la finesse de gravure est plus élevée sur les dernières séries. Donc, enfin moi, la question des ventilateurs me préoccupe tout le temps. Donc, c'est un peu pour ça que je fais ça. Je veux pas de bruit dans ma machine, ou aussi peu que possible. Mais...
Je comprends. Moi, je suis avec une 1070 là, et très honnêtement, j'en suis très satisfait. Donc, je comprends ce que tu dis, quoi. Mais pour les gens qui sont par exemple, je sais pas moi, qui sont pas encore à la série des 900, par exemple, je veux dire, ça mérite réflexion pour passer sur des 1000, quoi.
On est d'accord.
Faut attendre un petit peu, en fait. Mais faut pas se jeter dessus tout de suite. D'ailleurs, c'est valable pour toutes les technos, moi, je trouve. Mais bon.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. On a a priori la 2070 devrait tourner autour des 400 euros d'ici quelques mois. Donc c'est
super,
un petit peu plus raisonnable.
Super honnête aussi. Mmh.
Ouais. À voir, je ne sais pas si vous avez vu, peut-être Chloé, si tu as vu les rendus, alors c'est toujours un petit peu marketing, mais les rendus qu'ils ont présentés sur, je crois que c'est Battlefield 5 et Shadow of the Tomb Raider, qui ont le ray tracing implémenté dans leur moteur dès leur sortie plutôt, et ils auront des patchs pour d'autres jeux. Donc ils ont essayé un petit peu de pallier à ce problème de nouvelles technologies qui n'est pas du tout utilisée par par les jeux actuels. Est-ce que c'est des rendus qui t'ont convaincu, ou est-ce que c'est bon, oui, c'est plus beau, mais ça casse pas trois pattes à un canard non plus?
Alors, je vais devoir faire une confession. Étant joueuse console confirmée,
ah, d'accord.
J'avoue que toute l'actualité matos PC me passe largement par-dessus. Mais non, surtout, enfin, quand j'entends parler des prix, etc., ça me...
Ouais, c'est ça qui t'arrête.
Comment dire, je vois que c'est un autre monde. Moi, je reste avec mes petites consoles à 300-400 euros. Et voilà, on a investi et on est tranquille pendant quelques années. Donc, je t'avoue, je ne me suis pas... pour cette conférence et pour les rendus, enfin surtout c'est souvent quand même des rendus de l'espace avec des ordinateurs dignes de la NASA et que tu auras quand même difficilement chez toi sauf à investir des sommes.
C'est vrai, ouais.
Ce qui est marrant dans ce qu'elle dit, c'est que ça ramène au marché des consoles, où il y a un moment aussi où les consoles sont obligées de se mettre au ray tracing. Et du coup, peut-être que ça va accélérer un petit peu l'arrivée des prochaines consoles. Mais enfin bon, après, ça va dépendre surtout du nombre de jeux qui exploitent ça.
Bah.
Mais on sait déjà qu'il y a des nouvelles consoles, donc ça paraît très logique que sur la génération prochaine, pardon, ce soit une technologie intégrée.
Qui soit implémentée, c'est sûr.
Méchamment le prix des machines, quoi.
Bah, on va voir, mais c'est vrai qu'ils travaillent, généralement, les fabricants de consoles travaillent avec AMD, à voir s'ils ont ce type de technologie implémentée, mais a priori oui, ils se suivent généralement Nvidia et AMD, donc à voir s'ils auront ça dans les prochaines consoles sur lesquelles ils sont déjà en train de travailler, dont on parlera dans un instant. Mais oui, c'est vrai que ce que tu dis est très juste, Chloé. Les graphismes qu'on voit, oui, c'est possible, mais c'est pas juste la carte de fou qu'il faut acheter. C'est aussi tout le reste du PC qui va avec.
Oui, c'est
donc
tout le
reste.
C'est
un autre type de marché, ouais, c'est vrai. Mais peut-être pour la 2070, moi, je reste convaincu. Quand même. On verra.
Bon, parlons un petit peu. PC.
C'est ça, bien sûr.
Ça, mais... forcément, ça, c'est un autre monde. Quoi.
Quand tu es comme moi, un joueur tout. Eh ben, tu peux essayer de te construire un PC correct aussi. Parlons, tiens, du Inside Xbox de la Gamescom très rapidement, parce que ça me permet de parler de ce programme Inside Xbox qui a été lancé il y a quelques mois, qui est en fait une sorte de Nintendo Direct, communication directe entre Microsoft et ses clients et ses fans. Et pour dire que moi, j'ai l'impression que l'expérience est quand même pas hyper réussi, quoi. Je comprends la volonté de Microsoft de vouloir parler à ses clients directement et leur amener des informations et de tisser cette relation avec eux, mais je trouve que au-delà du fond, qui est peut-être problématique pour des questions de contenu, je trouve que même la forme est quand même assez mal ficelé. On en parlait sur le Slack des Patriotes du Rendez-vous Tech et Johan, l'un des auditeurs et amis, a fait une analogie que j'ai trouvée assez juste. Certains passages ressemblaient presque à du téléachat. Je trouve que c'est hyper mal foutu et c'est hyper dommage parce qu'ils ont une opportunité chez Microsoft de faire quelque chose de vraiment intéressant et je trouve qu'ils le ratent parce qu'ils ne communiquent pas. Encore une fois, comme souvent, Microsoft ne maîtrise pas bien sa communication et c'est assez dommage. Sur cette présentation à la Gamescom, par exemple, j'ai l'impression que l'avis général c'est quand même un petit peu malaisant. Ils disent rien, ils ont passé, je sais pas, peut-être 10 minutes à s'excuser de l'état de PUBG, ce qui est bien de dire on est désolé de l'état de PUBG sur Xbox, mais tu peux pas, au niveau communication, dire simplement on est désolé et ensuite rien présenter, faire le deuxième effet qui se coule, qui serait présenter des trucs cool dont les fans pour lesquels les fans pourraient s'exciter. Là, et ce n'est qu'un exemple, c'est Major Nelson qui est allé en Corée chez PUBG Corporation et on avait l'impression que les 10 minutes de reportage qu'il a ramené, c'était « Ah ouais, on est désolé, il y a ça qui marchait pas, ça qui marchait pas, ça qui marche pas, mais bientôt on aura la version 1 où les trucs vont marcher. » Et tu te dis « Mais donc, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que rien ne marchait et que maintenant, enfin, ça va être normal, quoi. » Et il n'y avait pas de... Enfin, oui, il présentait la nouvelle carte Sanok qui va arriver, mais qui est déjà sur PC depuis longtemps, enfin... Je trouve que c'est une opportunité manquée, ce Inside Xbox, et que le fait qu'ils fassent tous les mois une heure et demie, c'est du remplissage, là où Nintendo fait très intelligemment des trucs très courts parfois, et ne sort pas forcément tous les mois. Donc, en tant qu'observateur, qu'est-ce que...
Je pense que déjà Nintendo, là, ils sont très intelligents, c'est que les Nintendo Direct sont courts. Enfin, généralement, en moins de 20 minutes, c'est bouclé. Donc, c'est ultra monté, ça va directement à l'essentiel. Donc, généralement, à la limite, un petit speech de quelqu'un de chez Nintendo, soit le Big Boss, Boss Europe ou Boss États-Unis, on balance des trailers et voilà quoi, c'est fini. Il y a peut-être avoir un petit speech de développeur pour dire merci, voici mon jeu, appréciez s'il vous plaît. Et ça s'arrête là. Et aussi, là où Nintendo est assez fort, c'est qu'ils ont une forte connivence avec leurs fans. Et donc, ils savent comment leur parler. Donc, ils font des petites blagues pendant les Nintendo Direct. Il y a des mèmes. Enfin, à l'époque, je pense que Reggie Fils-Aimé fait un nombre de trucs quand même incroyables pour un patron d'une aussi grosse boîte. Enfin, il se met en scène dans des scénettes assez drôles. Bon, je vois mal les gens, un peu plus difficilement, les gens d'Xbox faire ça. Et donc, c'est... Enfin, juste avoir pendant une heure et demie. Déjà, c'est une éternité, une heure et demie. Une heure et demie de vidéo, avoir des mecs qui discutent et puis éventuellement avec un peu de reportage, mais qui du coup sonnent un peu produit marketing publicitaire, regardez ce qu'on fait, c'est génial. Enfin, je pense que c'est pas tout à fait pareil. Ça donne pas la même impression qu'un Nintendo Direct. Parce que même si un Nintendo Direct, c'est très produit, c'est très pensé, etc. Mais il y a une sorte de vibe culture internet qu'ils mettent dedans, qui fait que bah, les gens se marrent en les regardant. Et surtout, quand tu vois le bruit que ça fait sur les réseaux sociaux, un Nintendo Direct, quand je ne vois pas forcément, j'ai oublié qu'il y avait un Nintendo Direct, je le sais dans les heures qui précèdent, parce que juste ma timeline ne parle que de ça.
C'est vrai. C'est en ça que c'est une opportunité manquée pour Microsoft. Et tu disais, ils sont très à l'heure d'Internet. J'ai l'impression que c'est Inside Xbox, la société de production à laquelle ils le confient, ou s'ils le font en interne, ils sont plutôt à l'heure de la télé. Le reportage sur PUBG, je parle encore de celui-là, mais au début, c'était Larry Herb qui était assis dans un truc, qui dit « Quand nous sommes arrivés en Corée, nous sommes directement venus au machin. » Il se lève, il reboutonne sa veste. Et tu te dis, mais est-ce qu'on est en train de regarder un reportage de ABC aux États-Unis ou de quoi on nous parle là ?
Donc enfin, bref. Ils nous ont fait un truc aussi sur la bouffe allemande aussi.
Ça a commencé avec le bureau du tourisme de Cologne.
Exactement.
et ça a duré que 3 minutes, mais j'avais l'impression que c'était 1h30 qui s'était passé déjà.
Enfin, c'est assez étrange. Après, moi je trouve l'initiative intéressante dans le sens où alors Nintendo, tu te parlais d'une connivence avec son public. Ils sont à un autre niveau Nintendo par rapport à,
c'est sûr,
par rapport à Microsoft. Microsoft, ils essayent d'acquérir ça en fait. Ils ont les consommateurs qu'ils ont acquis sur 360, qui sont encore sur Xbox aujourd'hui, ils les ont déjà. En fait, ils essayent de trouver un autre public pour élargir leur vente de consoles puisqu'ils sont très en retard par rapport à la PS4. Ils essayent, mais malheureusement, il y a ce côté marketing, effectivement, qui fonctionne aux États-Unis, en fait. Je pense que pour le public américain, ça n'a pas été si choquant que ça.
Peut-être,
oui. De packs, de bundles, etc., arriver tout le temps. Je pense que dans le reste du monde, en tout cas en Europe, c'est beaucoup plus choquant. Et c'est ça qui est un petit peu dommage. Et puis, l'autre truc où ils ont vraiment, vraiment merdé, le terme est bien choisi, c'est qu'en gros, ils ont fait comprendre aux gens qui suivent l'actu jeu vidéo qu'il y aurait une énorme annonce, en fait, ou un truc.
Ouais,
il y aurait quelque
ouais.
chose. Et en fait, il n'y a rien eu. Ça a duré 1h30, ça a été long et pénible, il n'y a rien eu. Et du coup, c'est très décevant, on les attendait beaucoup sur le Game Pass aussi. Alors que c'est leur fer de lance du moment. Alors évidemment, il y a quelques jeux qui intègrent le Game Pass, c'est super, Halo Collection, tout ça. Mais je veux dire, il n'y a rien eu de tonitruant là-dessus. Et pourtant, la guerre sur les prochaines années, elle va se faire là-dessus. Donc c'est vrai que c'est le truc où tout le monde les attendait, et il n'y a rien eu du tout. Donc,
même le Elite Controller 2, là, ils l'ont pas présenté finalement. Donc,
non, ils ne l'ont pas présenté.
C'était juste des options de customisation des contrôleurs. Oh là là, c'était... Ouais. Bon, donc, bref.
C'est très marqué, t'es pas assez...
Mais je ne sais pas si Microsoft a vraiment déjà pris au sérieux en fait les salons européens, enfin la Gamescom par exemple. J'ai pas souvenir d'annonce fracassante qui a eu lieu en Europe.
Moi je dirais à la limite, c'est une remarque que j'avais fait sur Twitter, à la limite quand t'as rien à dire, et là on revient au Nintendo Direct plus concis, quand t'as rien à dire, bah tu te tais. Voilà, et parce que là ça heurte leur image plus qu'autre chose, donc bref.
Moi je pense quand même qu'ils devraient continuer, parce que dans la démarche de montrer des studios de développement à son public, c'est quand même une très bonne chose. Faut le faire autrement.
Je suis d'accord, mais autrement. Autrement, il y aurait des choses à dire, évidemment, suivre le développement des trucs, enfin, il y aurait plein de choses à faire. Moi, c'est surtout la forme, en fait, qui me gêne. Tiens, on parlait des petites scénettes de Régis Fils-Aimé. Ils en ont fait une avec Mike Morhaime pour l'annonce de Diablo 3 sur Switch. Ouais. Et alors, bien sûr, moi, j'ai une place particulière pour Blizzard dans mon cœur, mais je pense que c'est quand même un événement intéressant. L'arrivée de Blizzard sur Switch, c'est un bon début. Au début, je me disais, c'est un projet qu'ils ont fait pour s'entraîner à développer sur Switch. En fait, non, c'est Iron Galaxy qui a développé le jeu sur Switch. C'est ceux qui avaient avait fait Skyrim. Donc, bon, c'est pas tout à fait Blizzard qui s'entraîne.
Très réussi quand même aussi.
Très réussi, non, non, bien sûr. Et les premiers retours qu'on a des gens qui les ont testés à la Gamescom, c'est que, alors, la résolution n'est pas forcément au maximum, mais le framerate est très bon. Et c'est effectivement tout Diablo 3 sur Switch. Ce qui, bon, est peut-être une bonne chose, mais qui pose la question de est-ce que les gens qui ont déjà fait Diablo 3 ont envie de remonter des persos sur Switch ? Et ça repose du coup aussi la question du crossplay, qui est toujours bloqué par Sony. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais Bethesda a fait tout un ramdam sur ça, en disant que Fallout 76, ça se joue avec du crossplay, et que donc sur les consoles, il y a du crossplay, ou alors en sous-entendant que s'ils n'autorisent pas le crossplay, bien, ils n'auront pas Fallout 76. C'était assez surprenant. Mais à voir, bon, Sony y travaille. Mais oui, du coup, c'est sympa d'avoir Diablo 3 sur Switch, mais est-ce que vous allez remonter des persos en fait, Chloé, toi qui ne joues pas sur PC, tu as peut-être joué sur console, mais peut-être pas aussi, ça serait l'occasion de tester.
Ouais, c'est pas forcément mon style de jeu, non, tu vois, j'aurais plus quitte à plonger dans le catalogue Blizzard, enfin, je sais pas, j'aurais peut-être pris un jeu un peu plus récent et peut-être un peu plus facile, toi, je sais pas, un petit Overwatch sur Switch, je pense que ça serait pas, ça serait pas dégueulasse, quoi, surtout, bon, bah, tu vois, tu reprends ton compte, si tu as déjà un compte PC, etc., pour avoir ton personnage déjà à jour. Enfin, je sais pas, j'aurais peut-être plus imaginé, enfin, je pense que c'est peut-être un jeu plus joueur console compatible qu'un Diablo, mais après...
Bon, il est très bien sur Xbox, PS4, Diablo, il fonctionne bien, hein, mais... Ouais, c'est vrai que c'est quand même un jeu pas tout récent, et la blague que je fais à chaque fois, c'est que c'est le Skyrim de Blizzard, et qu'on va le retrouver sur les toasters, sur les téléphones, sur, surtout bientôt. Mais
après, tu vois, c'est aussi assez symptomatique. Là, en ce moment, quand tu vois les annonces qu'il y a eu sur Switch depuis le début de la Gamescom, c'est tout le monde porte son vieux jeu sur Switch. Enfin, là, c'est quand même une avalanche. Enfin, la Switch, c'est super, ça va permettre de rattraper les jeux qu'on n'a pas fait à l'époque.
Exactement.
Ou alors d'avoir en mode portable des jeux qu'on a bien aimés et on n'a plus forcément envie de rebrancher la vieille console, etc. Donc là, j'ai pas mal souri, quoi, en voyant toutes les annonces qui tombaient, notamment, bon, là, je voyais Grandia, super, j'ai pas fait le 1 sur PlayStation 1, donc c'est super, je pourrais le faire. Mais c'est vrai, ça devient vraiment la console du portage, tu vois, un peu en attendant de, bon, qu'on ait un peu qu'on ait l'opportunité de faire des jeux de cette génération sur Switch, bon, on va se faire la main avec des petits portages ou des choses comme ça. Enfin, ça devient vraiment une tendance assez lourde.
Après, quand t'achètes ta Switch, tu sais que tu l'achètes pas pour les graphismes, mais je pense que du coup, c'est une stratégie assez logique, en fait, de faire ça, parce que si tu sors ton Tomb Raider sur tous les supports et en même temps sur Switch, on va avoir une différence monumentale, ce qui n'est pas à l'avantage de Nintendo. Donc je pense que c'est plutôt une bonne stratégie de reprendre des vieux jeux qui ont marché et qui ont déjà fait leur beurre pour les adapter avec des graphismes corrects sur Switch. Donc je pense que c'est pas une mauvaise stratégie. Après c'est sûr d'autant plus, par exemple, ça me fait penser à autre chose, c'est que du coup ça permet à Nintendo de eux faire des jeux en fait qui sont considérés comme modernes, avec des graphismes tout mignons comme ils savent le faire, etc., mais qui ont des rendus qui sont quand même très 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 réussis sur leur machine. Donc ils restent leaders sur leur propre machine. Donc je pense qu'on va rester dans une configuration comme celle-là. C'est-à-dire on va adapter des vieux jeux, et quand on dit vieux jeux, c'est pas vraiment du rétro gaming, même si dès qu'une génération est dépassée, on est en rétro gaming, mais tu vas pouvoir jouer à des jeux PS2, PS2, PS3, Xbox 360 ou Xbox sur ta Switch, et avoir des super jeux dans l'air du temps via Nintendo, en fait, sur ta Switch. Et je pense que c'est comme ça que ça va continuer.
Après, je ne sais pas si ça va pouvoir continuer très longtemps, parce que je pense qu'au bout d'un moment, le vivier va quand même s'épuiser de jeux suffisamment puissants pour que les gens aient envie de repasser à la caisse pour y rejouer. Je pense que tous les éditeurs n'ont pas forcément une cargaison absolument énorme de gros.
Je suis d'accord
hits
avec toi, mais c'est pour le public déjà gamer. L'avantage de la Switch, c'est que ça touche aussi beaucoup de gens qui n'ont jamais vraiment été gamers, quoi, je pense. Et qui ont arrêté de gamer depuis longtemps et qui se sont remis à la Switch, et qui se sont remis aux consoles grâce à la Switch.
Possible.
Je pense. Donc, c'est peut-être cet esprit-là.
Il y a, en tout cas, c'est sûr, tout ce vivier assez divers, et puis les jeux indés qu'on mentionne aussi régulièrement. Ceci dit, Bethesda a annoncé que Doom Eternal, on y reviendra quand on parlera de la QuakeCon, sera disponible sur Switch aussi. Donc il y a aussi des jeux récents, ce que j'aurais jamais pu imaginer quand ils ont annoncé que ça tournait sur le Tegra de Nvidia qu'elle puisse faire tourner, même en downgradé, même en pas full résolution, même en tout ça, qu'elle puisse faire tourner des jeux comme ça. Même Diablo 3, je me serais dit, ouais, enfin, quand même, c'est pas évident, mais... Bref, l'avantage, bien sûr, c'est que ça utilisera toutes les fonctionnalités de la Switch. On pourra jouer à 4 avec 4 manettes sur la même console ou lier des consoles différentes et jouer ensemble. Donc ça, c'est entièrement pris en charge. Le truc que j'aimerais bien avoir, c'est une sorte de mode arcade ou de mode gauntlet où on pourrait choisir parmi, je sais pas, 10 différents builds et différents personnages avec différents sets et commencer à jouer comme ça juste pour faire quelques failles entre amis. Ça serait un moyen
de... Pas idiot.
Moi, j'aimerais bien ça, mais...
C'est pas idiot. Non, je trouve ça bien. Maintenant, moi, je peux te le dire. Tu posais la question au début du sujet. Il est hors de question que je remonte à un nouveau perso sur Diablo, sur Switch. Hein. C'est bon, ça suffit. Hein.
Encore qu'on le fait pour les nouvelles saisons, parfois. Moi, je l'ai fait 2-3 fois pour une nouvelle saison, remonter un perso de rien, mais...
Ouais, mais si t'as pas joué la classe, quoi, je viens... Enfin, bon, tu vois, au bout d'un moment, c'est... Ah non, c'est le jeu. Enfin, c'est terrible de dire ça, mais il est trop vieux, quoi.
Bah, je l'ai déjà rincé.
C'est pas graphiquement, mais je veux dire, il a.
Non, mais je l'ai rincé, moi.
2012 ou 2013, je sais plus. Enfin, bon.
2012, c'est... 2012. Ouais, 2012. Moi, j'ai je sais pas, 200, 300 heures dessus, donc oui, c'est vrai que. Bon.
Moi, je sais pas, ma femme m'a quitté, je sais plus.
Bon, ils ont aussi présenté un nouveau film d'animation sur Overwatch. Il y a genre une heure ou deux à peine. Il y aura d'autres nouveautés qui vont arriver, enfin des animations, des trucs comme ça qui vont arriver. Et un teasing de Lego Overwatch. Mon fils est encore un peu trop petit pour les Lego. Il risque de les avaler, donc c'est dangereux. Mais je me demande s'ils font des Duplo Overwatch, par exemple. Moi, je suis tout à fait pour. Ça serait très bien. Bon, il y a plein d'autres jeux qui ont été présentés ou représentés, bien sûr. L'E3 est généralement le moment où on présente tous ces jeux. Mais Devil May Cry 5, Rage 2, Shenmue 3 a une date, août 2019. Ouais. Ça me fait quand même un peu peur,
si
toujours.
Oui, je sais pas si c'était une bonne idée de donner une date, surtout si toi à l'avance.
Un an, quoi, ouais. Je suis... Bon. Bref, il y a plein de petites choses, mais le truc qu'on retient, je crois, et les impressions sont quand même très, très bonnes, c'est Sekiro, Shadows Die Twice, le jeu qui avait été présenté à l'E3, qui sera disponible le 22 mars 2019. C'est un jeu de From Software, qui est bien sûr le développeur de la série des Souls, et un petit peu chaque jeu est une variation sur le thème des Souls, et... Comment dire, Sekiro va encore un petit peu plus loin que Bloodborne dans le dynamisme du gameplay. Et on a vraiment l'esprit des Souls qui est conservé, mais dans un package qui semble être beaucoup plus fluide, où le mouvement est très important et la mécanique de combat est basée sur différentes postures. Le fait de devoir fatiguer, entre guillemets, notre adversaire avant de lui asséner un coup fatal... il y a un grappin qui permet de se déplacer très rapidement dans l'environnement, qui rend la chose, comme je le disais, très dynamique. J'ai l'impression que c'est un petit peu, ils sont en train de trouver l'équilibre et la formule qui va permettre à un petit peu tout le monde d'apprécier l'esprit des Souls. Je ne sais pas si vous êtes client des Dark Souls et des Bloodborne et des etc. Et si vous avez vu, ça vient de sortir il y a 2 heures, donc je comprendrais si vous n'avez pas encore vu, mais les premières impressions sont très bonnes. Et moi, ça m'a donné envie, alors que je ne suis pas client à la base. Est-ce que vous avez vu un petit peu ce que ça donne ?
Moi j'ai regardé un petit peu les séquences de gameplay qui sont disponibles actuellement. Effectivement, c'est très impressionnant. Déjà, c'était la surprise quand le jeu a été annoncé, parce que l'ambiance est complètement folle et les graphismes sont tip top. Donc ça, c'est déjà très bien.
On est dans c'est la première fois que dans cette série, bah, encore une fois, c'est pas officiellement une série, mais dans ce type de développement, ils reviennent au Japon. Donc, on a un héritage Tenchu aussi de From Software qui est très fort.
C'est qu'il joue sur la nostalgie Tenchu aussi et sur la liberté de mouvement, comme tu le disais. Et c'est vrai que le truc qui est impressionnant, c'est qu'ils arrivent à mixer intelligemment ce côté un peu ninja, saut, plateforme, etc. partout avec un système de combat assez poussé. Et ils sont en train en fait d'essayer de démocratiser leur genre qui à mon sens ne l'est pas encore du tout avec les Dark Souls, même les Bloodborne qui était là pour ça justement. Et je pense qu'effectivement c'est la bonne formule qui devrait leur permettre de plus se démocratiser, même s'ils ont réussi un petit peu à le faire avec Dark Souls 3. Mais ouais, c'est un très très bon compromis. Et à mon avis, ils vont trouver leur public là-dessus. D'autant qu'il y a l'autre jeu, tu sais, chez Sony sur PS4 de Samurai, là. Je sais pas si tu vois.
Ah oui, Ghost of Tsushima. Non.
Voilà, exactement. Et en fait, je pense que les deux jeux vont se tirer vers le haut par rapport au public, en fait. Mmh. Et du coup, si tu veux, il y a des gens qui vont se dire, je vais prendre Sekiro en pensant prendre Ghost of Tsushima, enfin, tu vois, et qui vont se dire, c'est deux jeux qui, Ghost of Tsushima s'adresse à un grand public, alors que je pense Sekiro, en fait, pas trop, en vrai. Et du coup, en fait, je pense que ça va permettre à Sekiro de percer un petit peu, en fait. Ouais, je pense. Au lieu de se bouffer l'un l'autre, ça va faire l'effet inverse.
C'est très possible, ouais. Ça me paraît assez probable, même. Ouais. Chloé, j'ai l'impression, je me trompe peut-être, mais j'ai l'impression que, comme moi, la série des Souls, c'est pas forcément ton truc. Est-ce que Sekiro te séduit un peu ou...
En fait, la série des Souls, alors je ne la pratique pas, mais je la vois pratiquer à la maison, car mon compagnon il joue beaucoup, mais parce que moi c'est pas, en fait j'aime pas les jeux trop punitifs, trop méchants.
C'est pareil. Les jeux méchants, moi, ça me frustre.
mais après, tu vois, on parlait des différences un peu de rythme déjà entre les Souls et Bloodborne. Enfin, tu vois qu'il y a quand même une différence de rythme entre les deux. Il y en a qui sont plus axés plus sur la défense bouclier, l'autre plus sur les esquives, etc. Donc, ça donne des jeux assez différents à jouer. Et là, de ce que j'ai vu, enfin, moi, là, j'ai pas eu le temps de voir le trailer, mais je me souviens très bien de quand j'étais à l'E3 à la conférence Microsoft et que c'était apparu sur les écrans géants. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce jeu? ça a l'air trop bien. Là, on est vraiment beaucoup plus action. Là, ce que j'attends, bon, c'est aussi avoir le temps de lire un peu les premiers retours sur justement la difficulté, parce que là, bon, ça en mettait un peu plein la vue au niveau combat, mais est-ce que c'est ultra punitif, est-ce que c'est tu prends deux coups t'es mort, est-ce qu'au contraire ça va être plus souple pour permettre d'embarquer un public plus large, je sais pas, et de là va dépendre aussi le fait est-ce que je vais y jouer ou non.
En termes de gameplay, ça a l'air toujours aussi complexe, là, effectivement, la mécanique des stuns, mais surtout, il travaille sur la mécanique de résurrection, en fait, qui fait que tu vas pouvoir, en fait, revenir à la vie plus facilement que dans les Souls, par exemple.
Ça devrait
te permettre. Ouais, vas-y.
Et il semble, en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'on peut ressusciter à l'endroit où on est mort, et si on refait suffisamment de dégâts aux ennemis, du coup, on peut ressusciter à nouveau. Donc, c'est pas juste qu'on a une vie en plus, c'est pas Shadows Die Twice, c'est vraiment Shadows Die five times si tu es suffisamment habile pour le faire. Donc, j'ai l'impression vraiment
qu'ils essaient de démocratiser ça. En fait.
C'est ça,
ils ont pensé à ça, ils ont bien compris que ça faisait souffrir des gens, et du coup, c'est le jeu. De la démocratisation pour From Software.
J'ai l'impression.
Si ça va fonctionner, mais en tout cas, ça fait la hype, ça c'est sûr.
Et en plus, le fait, c'est tout bête, hein, mais le fait que ça soit dans un univers japonais, c'est con, mais chez moi en tout cas, et chez tous les gens qui sont suffisamment intelligents pour apprécier des choses comme Terrace House, par exemple, tu vois, qu'on aime uniquement parce que c'est japonais, ça joue un petit peu aussi, quoi. L'ambiance médiévale européenne vu par les Japonais, moi ça me parle pas trop. Je trouve ça parfois un petit peu artificiel, et alors que cet univers-là est un petit peu plus séduisant pour moi. Donc ça joue.
Ils le maîtrisent moins, quoi. Vas-y.
Puis ça me faisait penser un peu aussi à Tenchu, puis aussi à Omnimusha, quoi, quelque part.
C'est vrai.
Enfin, toute cette vague de jeux samouraï. Et aussi, là, je pense que c'est aussi un atout de From Software, c'est que mine de rien, ils sont japonais, alors que Ghost of Tsushima est fait par des Américains. Et j'ai un peu peur de l'aspect brochette fromage
Écoute, si y a ça,
moi je garde espoir.
J'ai un peu peur de ça, mais bon, on va voir.
Ouais, c'est vrai. Mais j'ai l'impression qu'ils se sont quand même bien entourés, mais on verra. Donc, voilà pour l'E3. Il y aurait plein de choses à dire en plus, mais on a quand même, je pense, couvert l'essentiel. Parlons un petit peu d'une news un petit peu plus ancienne, mais qui est extrêmement importante aussi. C'est ces rumeurs sur la prochaine ou les prochaines consoles de Microsoft. Il semblerait que ces consoles soient conçues en tandem, évidemment, avec un système de streaming de jeux vidéo. Alors, vous connaissez le système, hein, c'est ce que fait Shadow PC, ce qu'a tenté OnLive, ce que fait aujourd'hui PlayStation Now, où ils vous stream l'image et vous envoyez vos données de manette jusqu'au cloud, au serveur, qui vont vous renvoyer l'image. Donc, vous n'avez pas besoin d'une grosse console à la maison, même pas besoin du tout, vraiment, de console à la maison, juste un petit matériel ou une petite, ou même n'importe quelle tablette ou un truc comme ça. Mais pour le moment, ça fonctionnerait sur deux consoles. Et là où c'est intelligent, c'est que la première serait une console traditionnelle où vous pourriez jouer avec les jeux en version classique, c'est-à-dire le jeu installé sur votre disque dur ou même peut-être en disque que vous installez sur votre machine, ou alors avec ce service de streaming, et tous les jeux seraient disponibles sur les deux. Il n'y aurait pas de distinction faite entre certains jeux qui sont disponibles sur un système et d'autres non. Donc c'est vraiment deux manières de jouer au même jeu. Et la console traditionnelle qui coûtera, je ne sais pas, 400€, ce que ça sera, pourra faire les deux, mais ils auront aussi une autre console, une sorte de box de streaming, qui sera beaucoup moins chère et qui, bien sûr, ne jouera que les jeux en version cloud, donc en Xbox Cloud. Et là où c'est intéressant également, c'est qu'ils ont visiblement une certaine quantité de calcul qui est fait même sur la box de streaming pour calculer les collisions en local, pour minimiser les effets du lag. Parce que bien sûr, avec le streaming, le gros problème, au-delà du fait qu'il faut avoir une grosse connexion pour pouvoir afficher les images en bonne qualité et assez vite, le problème, c'est celui du lag par rapport à votre serveur. Et donc, si on peut minimiser le lag avec un tout petit processeur de calcul qui va... Alors, je ne sais pas comment ça va marcher, parce que comment est-ce que le calcul local va influencer l'affichage de l'image qui est calculé sur le serveur de... J'en sais rien. Mais visiblement, c'est ce que dit la rumeur. Et si ça arrive à au moins minimiser le problème du lag, qui fonctionne déjà pas trop mal pour les jeux en solo, etc., ça pourrait être une solution acceptable pour une bonne partie des joueurs. Du coup, comme d'habitude, je me retourne vers vous deux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous pensez que c'est la bonne formule pour ça ? Est-ce que c'est crédible ? Est-ce que c'est réaliste ? Ou vous n'y croyez pas du tout ?
Bon, moi, j'ai un peu du mal à y croire. En fait, je pense que c'est plus ce vers quoi Microsoft voudrait tendre d'ici, allez, on va dire 10 ans. Plutôt que ce qui va arriver là dans 2-3 ans. En fait, alors, la formule est bonne de garder une console traditionnelle et à mettre à côté une console cloud, mais juste les infrastructures ne sont pas prêtes. Enfin, là, tu donnes une console cloud aux Français, il n'y a pas beaucoup d'endroits où ça a marché. Aux États-Unis, c'est encore pire. Enfin, aux États-Unis, il y a des territoires entiers où la fibre, c'est juste. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? On ne connaît pas. Les personnes de l'industrie avec qui j'en ai parlé, ces histoires de cloud, ils me disent tous assez clairement, ça pourra être viable que vers 2030, à peu près. Le temps que... Parce qu'en fait, ils sont totalement redevables des opérateurs télécoms et que les infrastructures soient vraiment costauds. Et là, j'entends sur l'ensemble d'un territoire, pas juste dans quelques villes privilégiées qui ont la chance, parce qu'elles ont assez de monde qui y vivent, d'avoir des infrastructures au top. Donc,
c'est pour ça que c'est intelligent d'avoir les deux options, en fait. Tu vois, ils font pas le choix entre l'une et l'autre, mais...
Ouais, mais du coup, est-ce que... Enfin, tu vois, il y avait déjà le côté... Enfin, comment dire ? Tu segmentes tes joueurs, parce qu'avant, c'était genre... je sais pas si tu te souviens, quand la Xbox One était allée sortir, Don Matrick, quand on lui avait dit « quand même, c'est un petit peu cher, votre console », on lui avait répondu, grosso modo, « si vous êtes pauvre, il y a la 360
». Non, bien sûr, mais...
Non, mais là, ça fait un peu... Bon, alors, vous, les gens qui avez la chance d'être dans des grandes métropoles, vous allez avoir le top de la technologie, et sinon, les autres, bah, vous aurez une console super chère, qui fera la même chose, mais qui coûtera 3 fois plus cher.
Oui, voilà, on peut le voir comme ça, c'est vrai, oui.
Mais c'est un côté qui va coincer.
En même temps, les gens qui sont vraiment des gros joueurs, je pense qu'ils vont prendre la console classique, quoi qu'il arrive. Je crois qu'ils voudront justement ce lag minimum, donc ils vont prendre la console classique. Je me demande si la console... Bon, du coup, je ne suis même pas sûr de à qui elle s'adresse, la version moins chère, mais si le lag est suffisamment mitigé par ce calcul des collisions en local, peut-être que ça sera une solution acceptable pour des gens. Et comme les jeux sont vraiment disponibles soit... Enfin, dans les deux versions, c'est pas segmenté, justement. Je trouve que c'est la différence. C'est que c'est pas segmenté, là. Et en plus, il est pas impossible qu'ils mettent des applications sur les consoles existantes, la Xbox One notamment, pour activer ce service sur l'Xbox One aussi. Et en plus de ça, alors j'essaye vraiment de vous vendre mon beefsteak là, mais c'est en plus de ça, tout le monde est en train de se diriger, d'explorer cette solution. Même Google a engagé quelqu'un de chez Sony et ils sont en train de développer une console qui fonctionnerait sur ce principe. En tout cas, c'est les rumeurs qu'on entend. Et si quelqu'un peut y arriver, il y a quelques sociétés. Et Microsoft est dans ces sociétés. C'est des sociétés qui ont énormément de serveurs.
Ouais, mais ça repousse pas l'argument qu'elle te donne, qui est l'infrastructure, en fait.
L'infrastructure,
Vas-y.
Non, ce que je voulais dire, c'est effectivement, toute l'industrie tend vers le cloud. Ça, c'est certain. Tout le monde est en train de partir là-dessus. Et là-dessus, Microsoft part avec une longueur d'avance parce qu'ils ont les infras. Ils ont le cloud Azure, ils ont tout ce qu'il faut, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres grosses sociétés du jeu vidéo. Mais voilà, c'est la question, c'est quand. Et pour moi, quand, c'est pas demain, c'est plutôt... Ouais,
mais... Non, mais
demain.
On est quand même plusieurs millions en France à avoir la fibre, non ? Je sais pas, peut-être que je dis une bêtise.
Ça suffit pas, à faire des ventes de consoles dans le monde, quoi, tu vois. Mais cela dit, là où je suis pas d'accord avec Chloé, c'est le côté segmentation, en fait. Ils s'en sont très très bien sortis, étonnamment, avec la Xbox One S et la Xbox One X, parce que tu pouvais comprendre aussi que la Xbox One S, c'était la console des pauvres, et la Xbox One X, c'était la console du vrai gamer. Et aujourd'hui, en fait, ils arrivent très bien à vendre les deux, et il s'en sort très bien. Donc je pense qu'il ne faut pas le prendre comme ça, en fait. Il faut prendre surtout ça comme ce que font toutes les grosses boîtes aujourd'hui, qui est faire des offres en fonction du portefeuille. Et c'est le cas pour Google, c'est le cas pour Apple, c'est le cas pour plein d'autres, où ils font différentes gammes, en fait. Et toi, tu rentres dans le cadre ou tu ne rentres pas dans le cadre. Ça va pas plus loin, en fait. Et tout est une question d'arriver à vendre la chose correctement aux clients concernés. Et de toute façon, on est tous d'accord pour dire que c'est l'avenir. Donc moi, je pense que déjà en parler, c'est une bonne chose. Le sortir dans les 2-3 ans, c'est une erreur. Et là, je suis d'accord avec toi, Chloé. Il va falloir attendre 5 à 10 ans avant que ce soit vraiment intéressant pour tout le monde.
Tiens,
en tout cas, je vais
vous poser une question, du coup. Je suis allé chercher les chiffres. Quel pourcentage de foyers français pensez-vous qui sont reliés à la fibre ? En pourcentage ?
Eh bien, écoute, si j'avais Internet, je te répondrais, mais je ne l'ai pas.
Non, mais essaye de... C'est intéressant, justement. Essaye de lancer une...
Je ne sais pas. En fibré, là, je ne sais pas. Peut-être... 30%, 40% peut-être.
Ah, d'accord. Chloé ?
Ouais, si c'est en vraie fibre, je dirais 20%. Enfin, attention, c'est... Est-ce qu'ils sont... Ils ont la possibilité d'avoir la fibre ? Ils ont la possibilité. Alors, dans ce cas, c'est pas mal. Je crois qu'on est à plus de 50% maintenant. Mais par contre, ceux qui sont vraiment, enfin, qui ont fait la démarche d'être fibrés est bien plus faible.
Alors, le chiffre, il y a un an, en 2017, était de 43%. Donc, on doit être un petit peu plus loin, un petit peu plus haut maintenant. Ouais. Mais c'est quand même pas mal. C'est-à-dire qu'au niveau de l'infrastructure, elle est quand même peut-être un petit peu plus... Moi, j'aurais jamais pensé que c'était 43% des foyers. J'aurais dit peut-être 25 reliés, parce que quand tu comptes l'ensemble du territoire. Donc... Et n'oublions pas que cette console devrait sortir dans 2 ans minimum. Donc, je sais pas, moi je me demande s'ils n'ont pas un truc quand même, s'ils tiennent pas quelque chose avec toutes ces différentes astuces.
Et on pense aussi qu'en France, on est privilégié là-dessus.
Bien sûr, bien sûr.
Internet, il y a tout le reste du monde et la France, c'est...
Il y a d'autres pays où c'est mieux.
Oui, bien sûr, en Europe aussi. Il y a aussi beaucoup de pays où c'est moins bien.
C'est vrai.
Il y a des pays où c'est bien.
Et bien pour eux, ils auront la console classique, tu vois, qui est disponible.
Non, mais bien sûr, c'est pour ça que moi... Vas-y.
Ah non, excuse-moi. Le bon test aussi, c'est le PlayStation Now de Sony. Enfin, même chez des gens qui ont la fibre, ça marche pas forcément du feu de Dieu non plus. Enfin,
mais c'est pour ça que...
Il y a du flou, il y a... En tout cas, que c'est pas encore 100% prêt, quoi.
C'est pour ça que je dis, Microsoft, ils savent ce qu'ils font là-dessus. Ils ont une infrastructure qui est imbattable. Et Sony, ils ont dû construire leur infrastructure de rien. Donc, je peux comprendre qu'elle soit moins développée. Et pareil avec cette... s'ils ont réussi à faire un truc qui calcule les collisions en local et qui vous permet de minimiser ce genre de problème. Alors oui, ça n'améliore pas le problème des vidéos floues, mais ça améliore le problème de... on passe à travers le... on fait un saut qu'on a raté parce qu'on avait un quart de seconde de lag. Donc ça, c'est important aussi. Bon, Bref, à voir.
Je pense qu'ils sortiront pas ça s'ils n'ont pas ces trucs-là. Quoi. Tu ne peux pas te permettre de sortir ce truc-là si tes collisions, elles déconnent, quoi, même pour un problème de lag. Donc, non. Je pense qu'ils font beaucoup d'expérimentations aussi avec le Xbox Game Pass, mine de rien. Et ils se rendent compte que c'est une formule qui fonctionne aussi très, très bien. Et ça justifie le principe de l'abonnement et donc aussi le principe du streaming. Et donc, du coup, ils ont de très, très bonnes surprises là-dessus. Et si personne ne connaissait le Xbox Game Pass il y a un an, aujourd'hui, tout le monde sait très bien ce que c'est, même les gens qui ne sont pas Xbox. Alors que le PS Now, en fait, les gens ne sont pas tous
satisfaits. On s'en fout en général.
Exactement. Bon, aussi parce que la bibliothèque est vieille. Hein. Enfin, la bibliothèque
marine. D'ailleurs, la PS Now, il n'y avait pas eu rumeur comme quoi ils allaient aussi passer au téléchargement direct de jeux pour avoir PS4 vachement plus récent. Parce qu'ils voient bien que la catalogue PS3 n'intéresse pas forcément énormément.
Il y a des jeux PS4, en fait, sur le PS Now, maintenant, depuis quelques mois. Mais il semblerait qu'ils soient en train de développer un système de téléchargement comparable au Game Pass. Les jeux. Et là, on a un autre problème avec le PS Now, qui est qu'ils ont tellement d'exclusivité chez Sony que c'est plus intéressant pour eux de vous vendre 3 ou 4 jeux dans l'année plutôt que de vous vendre un abonnement à 10 ou 15 euros par mois.
Tout à fait.
Donc, ils ont moins d'incentive à mettre leur dernier jeu dans leur catalogue.
Tu vois que Electronic Arts aussi, là, ça y est, ils ont lancé leur nouvel abonnement à $15 par mois avec justement l'accès aux nouveautés en avant-première. Enfin, je me dis, si tout le monde s'y met, ça va être un bazar, mais incroyable pour.
Quand ils ont présenté le truc, c'est que. Un joueur core gamer, ça ne s'adresse pas à tout le monde, mais un joueur core gamer qui achète un jeu par mois, en moyenne, un jeu par mois, on va dire 60 euros, parce qu'on ne les paye pas tous 70, mais 60 euros par mois, ça te fait quand même un bon nombre d'abonnements à 10 euros par mois, tu vois. Si tu prends l'abonnement Sony, l'abonnement Microsoft, l'abonnement EA et l'abonnement, j'en sais rien moi, Blizzard, je ne sais quoi...
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tu t'en prends 3-4. Tu t'en prends 3-4, ça te fait quand même une sacrée quantité de jeux à jouer tous les mois. Donc.
Electronic Arts, c'est pas les mieux placés pour ça. Hein. C'est pas du tout les mieux placés pour faire ça, en fait. Il ferait mieux d'attendre les consoliers parce que, en fait, ils sont en train de perdre les gens. C'est ce que disait Chloé, elle a raison, en fait. Et en fait, si tu as une offre pour ton abonnement normal, tu as un truc pour les offres, pour les gens en premium, etc. En fait, tu te retrouves avec deux abonnements chez un éditeur tiers, quoi. Tu vois ce que je veux dire? J'exagère un peu.
Ouais, je comprends.
Tu vois ce que je veux dire? Déjà, tu dois payer tes abonnements pour jouer en ligne sur console, etc. Au bout d'un moment, il faut laisser les consoliers ouvrir la voie et après, éventuellement, que d'autres s'engouffrent dedans.
Alors là, moi, je suis pas du tout d'accord, au contraire, parce que pour les développeurs, pour les éditeurs, c'est justement un moyen de court-circuiter les consoliers si on met en place l'idée du streaming. Besoin de console et il faut qu'ils commencent à travailler dessus maintenant pour pas que l'écosystème des consoles se recrée dans l'univers du streaming. Là, on parle à 5-10 ans, effectivement. Mais pour EA, ils ont tout intérêt à se lancer dans ce type d'offre maintenant, de manière à être là quand l'infrastructure du streaming sera en place.
D'accord, mais une offre, une seule.
Ah oui, bon, après, il faut simplifier.
Et que ce soit clair, quoi. Là, au niveau communication, c'est n'importe quoi. Ils n'ont pas la ludothèque pour se permettre ce genre de truc, quoi.
Je suis d'accord.
Que tu le payes pour Microsoft ou Sony, ou je veux bien, quoi. Mais que tu le payes pour Electronic Arts, non.
Aux États-Unis, il y a tous les jeux de sport qui sont plus populaires. Donc.
Ok,
Peut-être qu'il y a de ça aussi. Mais tu sais, Anthem, le jour où il sort, il va y avoir une augmentation du nombre d'abonnements parce que au lieu de payer Anthem 70€ ou 60€, eh ben, tu te prends 6 mois d'abonnement à ce truc ou même un an et du coup, tu as tous les jeux pendant un an, tu es tranquille. Donc, il y a quand même un intérêt, je pense. Bon, parlons d'une autre console, mais qui, celle-là, est bien présente, c'est la Switch. Nintendo vient d'annoncer qu'ils avaient vendu une 20 millions d'unités de la console depuis son lancement, donc ça fait 16 mois, je crois. Évidemment, lancement explosif, on s'est tous fait surprendre, je crois. Lancement explosif, première année incroyable, avec un Zelda révolutionnaire, un Mario... presque aussi révolutionnaire, je dirais, même s'il fait moins le consensus.
De bons jeux, de toute façon.
Voilà, et puis plein de bons jeux. Et puis maintenant, on arrive à 20 millions. On a des jeux à l'horizon, mais peut-être un petit peu moins de choses explosives que ce qu'on a eu dans la première année. Bon, il y a Smash Bros, il y a Metroid Prime, etc. Mais on est quand même en droit de se demander si les fans se sont jetés sur la console, les gens qui étaient intéressés de loin et ont fini par être intéressés ont acheté la console aussi. Alors évidemment, les ventes ne vont pas s'arrêter du jour au lendemain, mais est-ce qu'on est, je pense qu'on est en droit de se demander si on va arriver à un ralentissement des ventes de la Switch. La question peut se poser, et du coup, je vous la pose à vous. Qu'est-ce que vous en pensez? On en est où avec cette Switch?
C'est le syndrome oui, en fait. C'est-à-dire que les gens ont acheté parce que leur copain a acheté, et voilà. Et en fait, ils jouent à un
Là oui, ils en ont vendu 100 millions, donc si c'est ce syndrome, ils sont en bonne voie.
Je suis d'accord, mais peut-être pas que ça, enfin, l'arnaque marchera peut-être pas deux fois, d'autant que contrairement à la Wii, la Switch est une bonne machine, donc sur lequel tout le monde a développé. Donc non, je pense pas que ça va s'arrêter, mais si les gens y vont, c'est plus par habitude d'être convaincu par ce que fait Nintendo plus que par ce qui a été fait, parce que tu citais de bons jeux, ok, mais il n'y a pas non plus des jeux qui m'ont scotché, mis à part Zelda. Il y a pas tant de jeux inoubliables que ça, quoi. Il y a juste beaucoup de jeux, en fait.
De jeux exclusifs, tu veux dire?
Ouais.
Parce que, du coup, et là, je me retourne vers Chloé, des jeux exclusifs, c'est vrai, il y en a quelques-uns qui sont des system sellers, c'est quand même beaucoup, mais des jeux tout court, il y en a des tonnes.
Ah bah oui, c'est ça ce qui manque sur Switch.
C'est ça.
Jeux, ouais.
Et du coup, est-ce que c'est suffisant pour convaincre les gens encore?
Écoute, moi, je pense qu'ils ont une petite botte secrète qui sort en fin d'année qui s'appelle Pokémon. Pokémon Let's Go, qui est un mélange machiavélique entre un Pokémon classique et surtout toutes les fonctionnalités d'un Pokémon Go. Donc, je pense qu'avec ça, ils ont quand même un levier pour attirer les gens vers la Switch, le grand public. Et si jamais ça ne marche pas, c'est pas grave, l'an prochain, ils ont le vrai Pokémon qui arrive. C'est et là, il y a tous les Pokéfans qui vont être obligés de venir sur Switch parce que bah, sinon, ils n'ont plus de Pokémon, c'est terminé.
mais tu ne crois pas qu'ils ont déjà la Switch, les Pokéfans? C'est comme les fans de Brawl, de Smash Bros.
Pense aux enfants. Parce qu'il y a énormément de Pokéfans chez les... Alors, les Pokéfans, généralement, ils ont 20 ans et plus, mais il y a quand même la nouvelle génération qu'il faut nourrir. Et là, pour le moment, cette génération, elle reste bloquée sur la 3DS, parce qu'il y a, les derniers qui sont sortis, puis ils peuvent aussi un peu rattraper l'histoire Pokémon. Mais au bout d'un moment, elle ne va plus être nourrie du tout, cette 3DS. Donc, s'ils veulent continuer, si les jeunes générations veulent continuer à apprécier du Pokémon, il va falloir que leurs parents passent à la caisse pour acheter une Wii U. Une Switch.
Non, surtout pas une Wii U.
C'est un lapsus révélateur, je le dis. Oui.
pour acheter une Switch. Et déjà, le Let's Go, alors je l'ai essayé à l'E3,
c'est pas enthousiasmant ce que tu nous dis.
C'est
là.
Pas une Pokéfan, c'est tout.
Ouais. Mais non, mais attends, mais le jeu, c'est juste faire semblant de balancer une Pokéball sur un Pokémon. Enfin, ça a un intérêt ludique extrêmement limité.
C'est comme Pokémon
limité.
Go, quoi. Ouais.
Ouais, mais Pokémon Go, ça avait le côté sympa, genre tu sors, tu découvres des trucs dans ta ville, tu sors avec des amis, enfin...
Bah du coup, tu es en train de nous dire que ça va pas marcher. Tu disais que c'était une botte secrète.
Non, mais je pense qu'ils peuvent... Non, mais botte secrète, s'ils le vendent bien, parce que nous, les joueurs, nous savons que c'est pas terrible.
Ah.
Mais le grand public, tu lui dis genre, tu vas pour faire... En plus, ils vendent la Pokéball qui fait le bruit du Pokémon que t'as attrapé. et tu peux jouer avec. Tu vois, ça remplace la manette. Et j'ai joué avec, effectivement. Enfin, c'est très bien pensé pour que tu puisses jouer à une seule main avec la Pokéball. Il y a tous les boutons qu'il faut dessus. C'est très, très intuitif. Je pense qu'ils ont quand même possibilité avec ça, voilà, de faire un peu d'entrisme dans les foyers, comme ils ont tenté de faire aussi avec merde, comment ça s'appelle, le truc de
Switch,
de carton là.
Oui, oui. Ah non, le Nintendo Labo, oui, bien sûr.
Nintendo Labo, ouais, voilà.
On ne rappelle même plus du nom, tu vois.
Donc, oui. Nintendo Labo, ils en attendent pas mal pour Noël.
C'est
pour
vrai Noël, que c'est un truc qui est effectivement. Là où je vois un autre potentiel de croissance, bon, d'une part, il va y avoir cette année, évidemment, des bundles. Je ne pense pas qu'il y aura une vraie baisse de prix, encore que c'est possible, mais plutôt des bundles sympas. Donc, les gens qui hésitent vont se dire, oh, allez, je chope Zelda et la Switch pour un peu moins cher, ou Mario et la Switch, ou Mario et Zelda et la Switch pour un peu moins cher. Bon, ça risque de convaincre des gens.
Parce que son problème actuellement, c'est qu'elle est chère, en fait. Hein. Effectivement.
Bah, c'est ça.
En fait, elle est super chère.
Bah, elle est plus chère qu'une PlayStation 4 ou qu'une Xbox One la plupart du temps. Donc
c'est le problème de la machine pour l'instant.
Mais ce que je vois aussi arriver à un moment, peut-être pas tout de suite, mais à un moment, un nouveau modèle de Nintendo Switch, et Nintendo, avec la série des DS et des 3DS, bien est sûr. Expert avec ça. Et là où je rejoins Chloé, c'est que tu dis « Oh, il y a la nouvelle console qui arrive. Bon, bah, allez, moi, je vais me la prendre et je vais donner l'ancienne aux enfants. » et donc, enfin, des 3DS et des DS, ils en ont vendu 4 par personne, quoi. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à leur chiffre incroyable. Bah voilà. Ils en ont vendu au moins 15 ou 16 à Chloé uniquement. Donc, elle a beaucoup aidé les ventes de Nintendo. Mais ouais, donc la Switch... Au-delà du fait qu'ils ont un catalogue de jeux qui s'étoffe tout le temps, même si c'est des vieux jeux, même si c'est des jeux indés, il y a énormément de choses à faire qui séduisent les joueurs là où les anciennes consoles, enfin, qui séduisent les core gamers, là où les anciennes consoles de Nintendo se sont soit plantées comme la Wii U, soit ont connu la croissance en séduisant des gens qui n'étaient pas forcément des joueurs qui ont pris ça comme un jeu de société qu'ils ont utilisé deux fois. Là, les gens qui achètent des Switch, généralement, je crois, c'est des joueurs qui utilisent leur console. Et je crois qu'ils ont un attach rate beaucoup plus important que les consoles précédentes. Donc, il y a des choses à faire. Et avec les nouveaux modèles, c'est du coup un levier de croissance énorme. Et oui, et puis surtout, le vrai Pokémon, les gens se marrent un peu en voyant le Pokémon Let's Go, mais le jour où le vrai arrive, là, c'est plus du tout la même histoire. Parce que Prime et Smash, c'est des trucs qui restent quand même, qui font beaucoup de bruit, mais qui ont une audience relativement limitée. C'est-à-dire que les gens qui ont déjà la console risquent de les acheter, mais je suis pas certain que des gens qui n'ont pas encore la console vont l'acheter pour ces jeux-là.
C'est des gens... Smash Bros, en tout cas, clairement.
Surtout pas pour Smash, ouais.
Donc, bon,
mais après,
on verra.
Ce qui manque encore, je pense, à la Switch, pour vraiment, notamment pour le grand public, c'est tout con, mais il lui manque genre Netflix, YouTube, enfin toutes ces fonctionnalités. Est-ce que tu imagines, tu peux avoir Netflix en mode portable, plus grand que ton téléphone. Je pense que c'est quand même quelque chose qui attirerait des gens, quoi. Enfin, d'avoir ça en plus.
Moi, un intérêt que je trouve à la Switch, c'est que justement, elle est hyper simple. J'appuie sur le bouton, elle est allumée en 2 secondes. Il y a une mise à jour du système tous les 3 mois et ça prend 1 minute et demie à faire. Et c'est la simplicité du système qui me plaît aussi. Il y a des jeux que j'achète sur Switch pour y jouer sur ma télé et puis peut-être au cas où de temps en temps en mode portable, mais uniquement sur la télé parce que c'est tellement simple et je peux le faire. Dead Cells, c'est le cas par exemple. Je l'avais déjà sur PC quand il était sorti en Early Access. Je l'ai racheté sur Switch plutôt que sur une autre console parce que c'est juste moins prise de tête. Donc le fait d'avoir, oui, ils vont sûrement arriver à un moment, Netflix, tout ça, mais pour moi, c'est presque une mauvaise chose qu'il y ait tous ces services. Donc... je sais pas. Moi, ça me parle moins.
Tu peux proposer tous ces services en gardant une interface simple.
Hein. Ça peut être la même chose. Oui.
Si ce n'est que tu auras quand même un temps de connexion sur ton Netflix ou voilà, temps de connexion tu as aussi sur ton store Nintendo. Hein.
Bien sûr. Ouais. C'est vrai. Bon, bah écoutez, voilà pour la question Nintendo. Entre parenthèses, il y a les frères Belmond qui arrivent sur Smash Bros. Et le crocodile de Donkey Kong Country, Air Cool, machin, qui arrive sur Smash Bros. Ultimate. Ils ont vraiment tout sur Ultimate. Hein. Du coup, je pense que je vais l'acheter pour essayer enfin un Smash Bros.
ça m'a fait marrer quand vous avez dit que Nintendo Direct, tout à l'heure, ils réussissaient leur Nintendo
Direct.
Oui,
celui sur Smash.
On est d'accord.
Je vais pas relever dans ma tête.
tête, mais je ne l'avais pas dit à ce moment-là.
Non, c'est vrai, t'as raison. Bon, parlons un petit peu des jeux auxquels on a joué, un petit peu rapidement. Chloé, je ne sais pas si tu as encore beaucoup de temps, donc n'hésite pas à nous dire si tu dois filer. Mais parlons rapidement des jeux auxquels on a joué ces derniers temps. Il faut que je vous dise du bien de Dead Cells, puisque je l'évoquais. Qu'est-ce que j'aime ce jeu ! Alors, il était disponible en Early Access sur PC depuis un moment. Il est sorti il y a 2 ou 3 semaines sur les consoles et officiellement sur PC. Je l'ai acheté sur Switch. C'est un jeu vraiment extraordinaire. C'est un Metroidvania un petit peu roguelike avec des éléments de limite de Diablo avec les différentes armes qu'on peut coordonner avec leurs effets pour faire plus de dégâts. Les cartes sont générées aléatoirement, semi-aléatoirement, de manière à ce que la structure soit toujours la même, mais ça soit quand même frais. On a plein d'armes différentes qu'aussi on va récupérer aléatoirement. Et l'aspect roguelike, c'est qu'on va progresser à travers les niveaux et petit à petit, on va développer débloquer des updates et des armes et des capacités qui vont rester de manière permanente pour pouvoir aller de plus en plus loin. Et le combat, l'animation sont tellement impeccables que c'est un plaisir à jouer à chaque instant, quelle que soit l'arme qu'on a, on finit par y trouver du plaisir. Enfin, je vais pas faire tout un podcast dessus, mais je pourrais. C'est un jeu incroyable. Et pour ceux qui se posent la question, oui, il y a des mini ralentissements sur Switch sur lesquels ils travaillent, mais qui vont pas être résolus tout de suite. Mais c'est complètement accessoire pour moi. Ça n'a pas une importance majeure du tout. Donc Dead Cells, une merveille, possiblement mon jeu de l'année, en tout cas sur cette liste, quoi. Avec Celeste et God of War cette année, c'est un des jeux qui m'a le plus séduit. Et comme je disais, je pourrais en parler longtemps, mais je vais donner la parole aux autres.
Et puis c'est français, Cocorico.
Mais oui, Motion Twin, tout à fait. Et une société exceptionnelle. Donc, bon, je crois que vous n'avez pas joué à Dead Cells, mais...
Non, mais on a joué à d'autres trucs. Hein.
Ouais, alors à quoi vous avez joué, Chloé, justement ?
Bah, je veux bien me lancer. Bah, là, moi aussi, je suis sur un jeu Switch. Donc, c'est Okami. Okami HD qui là après être sorti sur toutes les consoles possibles et inimaginables est arrivé sur Switch et je suis très contente d'avoir attendu cette version pour enfin me mettre à ce jeu parce que jusqu'à présent on va dire ça fait combien de temps qu'il est sorti, 10-15 ans. Voilà, toutes ces années ça a été que des rendez-vous manqués entre moi et Okami et là ça y est et j'y joue, j'adore. Et je pense que c'est vraiment la meilleure version possible parce que bon, bah déjà, on peut y jouer en mode portable et le mode portable, je le trouvais très réussi. Je trouve limite plus fin et plus joli qu'en mode télé. Mmh. Et surtout, tu as toutes les manières d'y jouer possible. Donc, ils ont mis le motion gaming si jamais tu as envie de dessiner avec la capture de mouvement. Tu peux y jouer classiquement avec le joystick. Tu peux aussi y jouer en mode tactile. Donc, ça, c'est super. Pour directement ton écran et là tu peux faire les figures qui te demandent pour activer les pouvoirs et donc c'est extrêmement plaisant à jouer, enfin, j'ai l'impression d'avoir la version couteau suisse de Okami qui est déjà un super jeu et qui en plus là est magnifié par sa version HD. Enfin, c'est un véritable bonheur d'y jouer actuellement. Enfin, je prends des captures d'écran non-stop parce que c'est beau, c'est drôle. C'est beau, là. J'ai l'impression d'avoir la bonne version de ce jeu qui ne souffre plus de flou, qui ne souffre plus d'une maniabilité un peu bizarre. Là, tout est nickel, ça roule. Et en plus, ça coûte que 20 euros. Donc, voilà, si vous voulez faire un petit plaisir, il faut vraiment aller sur Okami HD.
Donc, moi sur Switch, Chloé sur Switch, 2 sur 3. Emric, qu'en est-il de tes activités ?
J'ai plein de jeux parce que je joue à plein de jeux différents, mais je vais essayer de faire rapide sur 3. Je joue sur Switch aussi en ce moment à Darkest Dungeon que j'avais pas fait sur PC, donc là je l'ai fait.
Ouais,
l'ai
encore fait la console de rattrapage, ouais.
Exactement, donc c'est le même principe que pour Chloé. Je me suis mis il y a pas très longtemps à Battle for Azeroth, évidemment. J'ai pensé avoir quitté World of Warcraft une bonne fois pour toutes il y a quelques années et finalement non. Et ça me fait rire parce que j'avais discuté avec un développeur de chez Blizzard en 2006 et je lui avais dit vous avez du contenu pour combien de temps ? Il m'avait dit pour 10 ou 15 ans, un truc comme ça. Et ça m'a fait marrer, je le croyais pas. Puis en fait, il avait raison.
Non, on y est à 15 ans là. Rends-toi compte, c'est un jeu qui existe depuis. Là, ça fait 14 ans qu'il est sorti.
C'est du délire.
14 ans.
J'ai joué à l'Alpha en 2005, donc pour te dire, c'est du délire. Enfin bon.
Bref, et Battle for Azeroth, j'y ai passé aussi beaucoup de temps. Bon, moi, j'ai un petit morceau de mon cœur chez Blizzard, donc c'est particulier, mais j'ai aussi joué à Battle for Azeroth et toujours impeccable. Ouais.
Ah, c'est, on en parlait tout à l'heure, c'est la narration qui est vraiment très très forte, au-delà du système de jeu, etc. Parce qu'en vrai, même s'il y a beaucoup
de choses... Ah ben le système de jeu, c'est quand même dans l'ensemble le même cœur qu'il y a des 14 ans.
C'est la même chose, il y a plein de mécaniques différentes, c'est vrai, dans le gameplay, etc. Les puristes diront que c'est plus la même chose, mais toujours est-il que globalement, c'est la même expérience, et très franchement, ça marche encore, quoi. Toutes les histoires qu'ils nous racontent, elles arrivent à nous transporter, et cette force qu'ils ont mis cette fois sur la narration, ça commençait déjà à se voir avant, hein, je veux dire... On l'a vu sur d'autres extensions, mais là, c'est vraiment encore plus fort.
Il y a plein de cinématiques en jeu, enfin, en moteur de jeu, hors du moteur de jeu. Et il y a deux continents qu'on va explorer en fonction de la faction dans laquelle on est, la Horde ou l'Alliance. Et il y a des trucs hyper malins. Enfin, c'est la guerre entre les deux, Battle for Azeroth. Et on explore notre continent avec une histoire complètement différente de la faction d'en face. Mais au fur et à mesure qu'on progresse dans les niveaux, on va aller faire des petites incursions sur le continent d'en face. Et ça, donc ça crée toute une mystique sur ce qui se passe là-bas, et on observe un petit peu les environnements dans lesquels ils sont, mais on les a pas complètement explorés. Enfin, c'est hyper bien, hyper malignement designé, quoi.
Ouais, tout à fait. Non, c'est très très bien pensé, et très franchement, en plus, ça te donne envie de t'intéresser plus au lore, en fait, qu'à l'époque en 2005, quoi. Moi, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au lore de Warcraft quand je suis arrivé au niveau 60, parce que je rencontrais des monstres qui avaient des légendes autour, etc. Mais au final, l'ensemble du lore ne m'intéressait pas tellement. Et là, avec la narration qu'il y a dans Battle for Azeroth, bah, je me suis replongé dans des vidéos de fans ou de professionnels qui parlent, et toi, tu es bien placé pour savoir, parce que c'est un petit peu ce que tu as fait en podcast, si je me souviens bien. Et du coup, c'est vrai que en fait, je passe beaucoup de temps à m'intéresser au lore alors que je connais le jeu depuis 14 ans, quoi. Donc moi, chapeau bas. Très franchement, chapeau bas, la hype est là, le jeu est là, il est toujours aussi bon. Il est peut-être, techniquement, il commence à être un petit peu dépassé quand même.
Les environnements, moi j'ai posté quelques photos, et on va arrêter sur Warcraft parce que c'est pas le sujet de l'émission, mais j'ai posté quelques screenshots, et il y a plusieurs personnes qui m'ont répondu sur Twitter en disant mais c'est World of Warcraft, ça, j'avais pas le souvenir que c'était aussi beau. Et c'est vrai qu'ils ont tellement fait évoluer le moteur du jeu, c'est plus du tout, enfin c'est ça n'a aucun sens de dire c'est un moteur qui a 14 ans, c'est un moteur qui a évolué.
Ouais. Complètement, il y a une refonte complète, on est d'accord. Et le jeu est très beau, mais surtout parce qu'il a une DA de malade, en fait.
C'est ça.
C'est une direction artistique de fou, mais techniquement, c'est pas si dingue que ça.
Non, c'est sûr, il tourne sur des machines. Donc, ouais.
Voilà, mais le rendu est extraordinaire, franchement, ça te transporte aisément. Moi, je dis franchement, chapeau, bah, bravo. Et je terminerai donc avec le troisième jeu dont je vous ai parlé, je suis sur Shenmue.
Les deux.
Et je suis complètement fan de Shenmue, hein, au point que, voire fanboy aveugle. Et là, je suis super déçu, en fait, en vrai. Tout simplement parce que j'ai trouvé que c'était hyper paresseux, ce qu'ils ont fait. Et je trouve...
Le port du HD, tu veux dire? Oui, d'accord. Oui.
Exactement. Alors, évidemment, c'est en HD, c'est cool, mais bon, les cinématiques sont en 4 tiers. Le gameplay méritait d'être assoupli, clairement.
C'est un port HD. Donc,
je suis d'accord, mais le sortir là pour essayer de faire la continuité avec Shenmue 3... qui déjà techniquement va sûrement être un petit peu à la ramasse. Je trouve ça hyper risqué finalement, et je trouve que ça risque de desservir l'ensemble de l'œuvre qui est néanmoins exceptionnelle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, je trouve que ça aurait mérité de faire beaucoup plus de travaux sur ce portage HD.
Vraiment. Ouais, c'était ma crainte, parce que le jeu est très mal vieilli dans ses mécaniques.
Voilà, mais la
narration est
aussi cool et tout. Voilà, mais par contre, c'est vrai que l'enregistrement des voix, toutes les voix, elles sont enregistrées à l'ancienne, il y a des espèces de ça grisonne parfois. Enfin, honnêtement, c'est presque déceptif, et c'est dommage, en fait. C'est vraiment dommage. D'autant plus que Shenmue 3 aura du mal à se faire une place. Donc, bon. Ouais.
Et j'ai oublié un autre jeu auquel j'ai joué cet été, c'est Détroit.
Become Human, oui.
Ouais, j'ai enfin pris le temps d'y jouer. Et ben écoute, bonne surprise, j'ai envie de dire, très bon jeu de l'été.
Ouais. J'ai joué avec Manana aussi, c'est extraordinaire.
Ça se joue tout seul, enfin, c'est sans déplaisir, et surtout j'ai apprécié d'avoir un jeu qui te dit que tu as le choix, et dans lequel tu as vraiment
effectivement
des choix.
Vraiment le choix, ouais. C'est très c'est ce que j'en disais quand je l'ai
dit, ça se joue à deux.
Ouais, ça se joue à deux.
Ça se partage, en fait, je trouve.
C'est ce que je disais quand je l'ai testé. Alors, je suis pas allé au bout. Il y avait trop de choses à faire à côté, mais étonnamment, le fait qu'il te montre tous les choix que tu aurais pu faire est très plaisant, en fait. Ça t'ouvre le monde plutôt que de te le démystifier. C'est un peu étrange.
Ils auraient pu le faire sur les autres, dans les anciens jeux aussi de Quantica,
oui.
Du coup. En fait,
oui, lever le voile sur les coulisses, en fait, pour te montrer que vraiment, oui, il y a un impact. Enfin, chacun de tes choix a un impact. Et quand j'ai terminé le jeu, j'en ai discuté avec un pote qui m'a parlé d'un passage que je n'ai absolument pas eu, juste parce que j'avais pris les décisions qui ont fait que mon personnage s'est retrouvé à tel endroit plutôt qu'un autre.
Mmh. Et du coup, j'ai refait le jeu.
Et puis après, tu vois, je suis allée sur YouTube pour voir un peu, genre, fin différente, tel personnage. Bon, j'ai trouvé qu'une vidéo, genre, qui dure, je ne sais pas combien d'heures, avec, genre, les 99 fins différentes du jeu. Et même pour un personnage, dans un endroit donné que je n'avais pas eu, il y avait au moins 7 fins différentes. Enfin, tu te dis, putain, quand même, le travail est assez ouf. Et ouais, j'ai apprécié qu'il y ait vraiment un vrai impact. Enfin, que ce ne soit pas artificiel comme peut l'être The Walking Dead, où on te fait croire que, mais au final, le point d'arrivée est exactement le même. Là,
ouais,
tu as quand même
ouais.
T'as un peu plus de latitude pour faire évoluer ton personnage. Donc voilà, ouais, c'était une bonne surprise. C'était très agréable à jouer ce jeu-là, encore français. Bon, bah, bravo, voilà. Cocorico.
Hey, deux jeux français dans le
ouais, bah ouais, carrément. Moi, je trouve que c'est... En fait, c'est des bons jeux, mais je trouve que c'est extraordinaire à deux, en fait. Parce que du coup, en fait, tu comme une série, tu te renvoies la balle, en fait, tu te dis, ah, mais il y a ça, je pense à ça, et machin. Et j'ai envie de dire, ça marchait même mieux avec le précédent, dont j'ai oublié le nom, mon Dieu, Heavy Rain. Non, bah, pas le précédent, mais
Heavy Rain. Le précédent, c'était Beyond Two Souls.
Ouais, tout à fait. Mais c'est Heavy Rain dont je parle, où tu cherchais le tueur. Et, ouais. Et ça, je me rappelle l'avoir fait avec une personne aussi. Et en fait, à chaque fois, on faisait des paris, etc. Il y a une espèce d'émulation qui se crée, et ça rend l'expérience extraordinaire, alors que ce sont juste des bons jeux. Je sais pas si vous voulez te dire, mais...
Ouais, voilà. Ouais, je comprends, tout à fait, ouais. Et je suis assez d'accord. Alors, tous ces jeux-là, dépêchez-vous de les faire, parce qu'on arrive dans la période de la rentrée.
Ça, c'est la folie, là.
Ah ouais, non, mais il faut faire vite, parce
même
que...
Même le début d'année 2019, hein, ça va pas s'arrêter. Hein. Ça va
mais être sans terrible, même aller jusqu'au début d'année 2019. On a... C'est ça, on a quand même tous les jeux qui fuient Red Dead Redemption 2, qui se sont mis à sortir de plus en plus tôt. Donc là, dans 2 semaines, on commence avec... c'est Spider-Man qui ouvre le bal, ouais. Je crois, et ça s'arrête plus jusqu'en novembre, et ça va être fou également. Et tu parlais
de Walking Dead. Il y a une grosse pause mi-octobre.
Ouais, octobre, c'est ça.
Et après, ça reprend en novembre. Voilà.
tu sens la place, les Red Dead qui arrivent dans le saloon et tout le monde qui s'écarte, tu sais. Il n'y a plus personne à côté. Mais tu parlais de Walking Dead. Alors, très rapidement, il y a eu l'Evo cet été. Et l'Evo, c'est une compétition de jeux de combat. D'ailleurs, Kayane, notre compétiteuse nationale, a participé à la compétition au tournoi de Soul Calibur. Elle est arrivée cinquième, je crois.
Cinquième ou sixième.
Et ce qui est quand même pas mal sur cette compétition, alors qu'elle avait... Ça faisait longtemps qu'elle n'avait pas participé. Donc, on lui souhaite bon courage pour la suite. Mais ils ont surtout annoncé pour Tekken 7 l'arrivée de Negan, qui est un personnage de The Walking Dead, et c'est la version série télé qui va être intégrée dans Tekken 7, où là je me dis, mais dans quel monde on vit, quoi? Negan de Walking Dead
va
se battre contre Geese Howard et Akuma dans Tekken.
C'est Tekken. Tekken, voilà. Il jump le shark depuis super longtemps.
C'est
quoi.
Vrai,
enfin,
c'est vrai.
Oui, Tekken, c'est n'importe quoi. Donc, voilà. J'ai envie de dire, c'est très dans l'esprit de Tekken, ce genre
c'est
de.
Vrai, c'est
de
vrai. Il y avait quand même Gond
monde,
dans le 3, quoi.
Il drague tout le monde. Hein, donc,
ouais, c'est ça.
Bon, enfin, il y a un moment où, voilà, quoi, c'est même pas surprenant. Ouais.
C'est vrai, c'est vrai. mais c'est très malin, quoi. Et en plus, Negan, il est exactement, pour ceux qui connaissent pas le personnage, c'est un vrai enfoiré avec sa batte. Il est pas gentil, quoi. Donc, il est parfaitement adapté à l'univers de Tekken.
Tekken, enfin, toi, c'était aussi un jeu dans les premiers. Tu jouais contre un dinosaure ou un kangourou
c'est ça,
avec
sans...
des.
Exactement,
avec
exactement.
Des boxeurs. Enfin, voilà, ça...
C'était le kangourou, le dinosaure, l'ours.
L'ours,
oui, enfin bon, c'était vraiment n'importe quoi. On est d'accord.
Il y avait tout.
Non mais là c'est intéressant parce qu'ils intègrent vraiment comme vous le disiez, ils vont draguer tout le monde et ils intègrent des personnages d'autres jeux. C'est pas juste des trucs de n'importe quoi, c'est que c'est n'importe quoi malin, quoi. Arada, il est pas bête, donc
loin de là,
vraiment pas. D'ailleurs, enfin bon, il avait fait un tweet qui était assez drôle, mais bref, on va pas parler de ça. Terry Bogart va être dans Fighting EX Layer. Si vous savez pas ce que c'est, ni Fighting EX Layer, ni Terry Bogart, il faut que vous commenciez à vous intéresser aux jeux de combat, parce que c'est important. Il y a plein d'autres petites choses pour d'autres jeux qu'on va sauter, parce que c'est pas essentiel. Mais parlons un petit peu de la QuakeCon avec Doom Eternal, dont on a vu énormément de gameplay, et donc l'annonce qui sera sur Switch aussi. Il y a du gameplay un petit peu différent. Il y a des sortes de comment dire, des petits sauts, des rushs qu'on peut faire avec notre Doom Guy. Et, mais dans l'ensemble, ça a quand même l'air d'être plus de Doom. Ce qui est bien, parce que moi, j'ai adoré celui de 2016, mais je sais pas, je suis moins hypé que je devrais l'être parce que j'ai adoré celui de 2016. Mais c'est juste plus de Doom, ce qui est cool, mais je sais pas, j'ai du mal à le décrire. Je suis pas aussi fou de joie que j'aurais pensé l'être à l'idée de cette suite de Doom.
Ah, même si c'est celui de 2016, c'était un reboot. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, enfin, Doom, c'est un peu toujours la même chose quand même, non?
Celui de 2016 était hyper intéressant parce que...
D'accord, mais on sait comment ça va se passer, en fait.
Ouais, ouais, ouais.
Doom d'avant, et il y en a eu plein d'autres, et puis il y a eu le reboot, et puis là, il va y en avoir plein d'autres à partir du reboot, et puis en fait, ça va être la même chose. Donc, moi, je suis plus intéressé par le mode du contrôle de démon, là. Ça, je trouve ça vachement cool.
Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'on aura fini le jeu, on pourra être dans des parties où d'autres personnes peuvent envahir notre partie en prenant le contrôle de démons. Et ça, oui, ça cool. Peut être marrant.
Ouais. Ils vont même pouvoir jouer en coop contre le mec, quoi.
Ouais.
Je trouve ça super malin, quoi. Voilà. Moi c'est ça. Et au-delà de ça, le jeu est quand même super joli. J'ai trouvé la démo super, super belle. Mais bon.
Très beau. Et moi, je l'attends. C'est juste que je l'attends moins que je pensais que je l'attendrais. Mais bon, encore une fois, il y a tellement de choses.
Parce que tu connais bien la recette, quand même. C'est vrai. Faut pas se mentir à un moment. Hein.
C'est vrai. Red Dead Redemption 2, on a eu une séquence de gameplay assez longue avec des explications sur la manière dont ça allait se passer dans ce jeu, enfin, et pas juste un trailer d'ambiance. Alors, il y aura, évidemment, ils mettent l'accent sur le monde ouvert, on peut faire tout ce qu'on veut, il y a le campement de notre bande de hors-la-loi qui va se déplacer au fur et à mesure de l'aventure et dans lequel on va apprendre à connaître les différents membres de la bande. On peut bien sûr aller dans les saloons et boire et jouer au poker, mais on peut aussi construire vraiment la personnalité de notre personnage en décidant comment il va agir. Et j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est mieux fait que simplement le système Paragon, comment ils appelaient, Paragon et machin dans Mass Effect, où c'est voulez-vous être gentil ou voulez-vous être méchant. C'est un petit peu mieux écrit que ça, j'ai l'impression, mais je sais pas, est-ce que ça vous a est-ce que ça vous a séduit? J'ai l'impression que Red Dead Redemption 2, on n'a pas vraiment besoin d'être séduit pour vouloir y jouer, mais qu'est-ce que vous en avez pensé?
De ce qu'ils ont montré, je crois qu'il n'y a pas grand-chose en termes de gameplay pur qui casse trois pattes à un canard, parce que la plupart des choses qui étaient présentées étaient déjà dans le premier. Toi, quand ils te montrent genre vous pouvez faire de la chasse et revendre le produit de votre chasse pour acheter des objets. Oui, c'était déjà le cas dans le premier.
Ouais.
C'était déjà le cas. J'ai l'impression que quand même les mécaniques de base sont sensiblement les mêmes que le premier Red Dead. Juste en mieux, en plus beau, en plus grand, avec une histoire plus longue, certainement une meilleure immersion. Mais je pense que la recette de base va être strictement identique. Ils ont rajouté le côté camp, ok, pourquoi pas, du moment qu'on ne me demande pas d'aller chercher des collectibles, parce que machin a besoin de trois troncs d'arbres, Bidule a besoin de six poissons. J'espère qu'il n'y en aura pas. Mais bon, j'ai l'impression qu'on reste quand même dans les formules bien établies de Red Dead, de GTA, voilà. Ça marche bien, pourquoi les modifier? Mais j'attends ça avec impatience. Puis surtout, attends, tu peux bâtir une relation avec ton cheval. Et ça,
ça c'est
pas
essentiel.
Des features révolutionnaires. Enfin...
On est d'accord.
C'est la narration, de toute façon, qui fait leur force aussi. Ils vont te raconter une histoire. Je pense que tu auras quelques quêtes FedEx, mais tu n'en auras pas non plus beaucoup. Donc,
ouais.
c'est là que tout se joue. Mais pour revenir au système dont tu parlais, j'en espère beaucoup. Et j'espère beaucoup de nuances, en fait, pour justement que ton perso soit plutôt du côté lumineux ou obscur. Tu vois, j'attends beaucoup plus de nuances que ça, en fait.
Ouais.
Après, les choix qu'ils ont présentés, je trouve que c'était quand même assez limité. C'était genre, tue-le, mets-lui un coup de poing, ignore.
Moi, j'espère qu'il y aura beaucoup plus que ça, en fait.
Disons que après les options, il peut pas y en avoir 60 000, mais je crois que la force de Red Dead et pas Naughty Dog, mais Rockstar, merci. La force de Naughty Dog étant dans le réalisme et la construction des relations. Même si c'est juste, mets-lui un coup de poing ou machin, on va avoir l'impression par l'écriture plus subtile que ça sera plus subtil, en fait. Enfin, c'est ce que j'espère, mais... Bon, à voir, il y aura d'autres, d'autres vidéos de ce type avant la sortie. Fortnite arrive sur Android, est arrivé ou arrive bientôt, mais ils ne vont pas utiliser le Google Play Store, ce qui mettrait... Enfin, j'aurais énormément de choses à dire à ce sujet parce qu'il va falloir passer par un site web pour installer une application et du coup, ça habitue les gens à installer des trucs ailleurs que par le Play Store. Donc, ça peut être dangereux, mais en même temps, Epic n'a pas forcément envie de payer 30% à Google pour jusqu'à la fin des temps, alors que leur jeu est suffisamment populaire pour que tout le monde aille le chercher directement.
Enfin, ouais, bon, ils s'en bref, foutent maintenant. C'est ça. Ils s'en foutent, là. Ils sont dans les étoiles, donc là, pour l'instant, quand ça marche, ils s'en foutent.
Mais oui, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais l'essentiel, c'est qu'il arrive sur Android. Vampire, c'est hyper bien vendu. Octopath Traveler, c'est vendu à 1 million de copies. Je crois que je vais arrêter de mentionner tous les jeux double A qui se vendent bien parce que j'avais commencé à le faire il y a quelques... Je sais plus, il y a genre 2 mois parce que j'avais reçu des commentaires de gens qui disent « Ah ouais, mais tu te rends pas compte, les jeux qui sont pas des triple A, enfin des jeux non triple A, ça se vend plus, ça marche pas. » Et là, en fait, toutes les semaines, il y en a 3 ou 4 qui sont vendus à 1 million. Enfin,
tu
vas arrêter, je pense que le message
est...
Non, c'est sûr, mais c'est ce genre de jeu qu'on parle. Et puis, j'ai aussi mentionné des jeux, je suis sûr qu'au hasard, Dead Cells, qui est un jeu complètement indé, et pas juste un jeu d'un gros éditeur en triple A ou d'un... Parce que Vampire, par exemple, c'est un jeu, on s'est dit, ah ouais, il est pas super, est-ce qu'il va réussir à bien se vendre pour machin? Et en fait, il y a des gens qui, il a trouvé son public, et il s'est vendu à presque 500 000 exemplaires, assez
en
15 vite.
Jours.
Ouais, en 15 jours, donc ça se... Bref. La leçon qu'on tire depuis quelques semaines, c'est que il y a vraiment de la place pour tout le monde, quoi.
Il y a un public pour tout le monde.
En fait. Ouais. Et bon, concluons avec Discord qui prend le chemin qu'on imaginait, c'est-à-dire ils vont se mettre à vendre des jeux dans l'application Discord, ce qui est vraiment une évolution naturelle de l'application parce que c'est pas avec leur option, je sais plus comment elle s'appelle, Turbo ou Nitro, qu'ils vont réussir à faire assez d'argent pour continuer à évoluer. Mais ce qui est encore plus intéressant, alors ils ont 150 millions d'utilisateurs. Au début, ils disent on va sélectionner vraiment les jeux qu'on va mettre sur notre store. Bien oui, bien sûr. Mais pour moi, c'est peut-être eux qui ont encore plus que Good Old Games, encore plus que les stores de développeurs qui sont limités aux jeux ou relativement limités aux jeux du développeur, évidemment. C'est eux qui ont le potentiel pour devenir un deuxième store universel sur la... Le PC, quoi. Parce qu'ils sont complètement agnostiques. Moi, je pense que c'est vraiment le concurrent à Steam, le premier potentiel concurrent à Steam, quoi.
Il y a Twitch aussi qui peut faire ça aussi. Enfin, qui fait ça aussi, en fait. Dans lequel il y a des jeux et qui
ouais.
vendent des jeux. Donc, je pense que oui, c'est une tendance, je suis d'accord, et qui pourrait très bien fonctionner. Mais malheureusement, Steam est là depuis tellement longtemps.
Ouais, ça va être
très long, quoi.
Bah, je pense pas qu'ils vont remplacer Steam demain. Mais par contre, devenir un gros deuxième store, Twitch, le truc, c'est que l'expérience est vraiment une expérience web. Donc oui, t'as l'application Twitch sur laquelle tu as les jeux que tu as chopés si tu es Twitch Prime. Ouais. Mais les gens vont quand même généralement sur le web. Là, les gens ont l'habitude de déjà lancer l'application Discord. Donc, ouais, le pas à faire est plus court, quoi.
Ouais, non, je suis d'accord. Mais c'est leur modèle à eux, quoi. Maintenant, effectivement, je suis d'accord avec toi, ils vont pas remplacer demain ce qui existe. C'est juste pas possible. Et puis, au bout d'un moment, ça va saturer tout ça, quoi. Trop de trucs, enfin il va y avoir trop d'endroits où choper ces jeux, il va falloir tout centraliser, quoi. Donc les nouveaux acteurs qui arrivent là-dessus sur la vente de jeux, moi je les
sens. T'y crois pas trop, toi?
J'y crois pas trop, non. Ou alors faut avoir l'air très très solide.
J'avais trouvé aussi leur argumentaire était assez bancal sur la manière dont ils le vendaient sur leur blog post, parce que donc là leur argument c'est de dire notre sélection sera ultra éditorialisée, ce sera le meilleur du jeu qui a pu sortir ou qui va sortir et tout et tout. Et leur argument, c'était genre, oh là là, tous ces jeux qui ont pu sortir, auxquels vous n'avez pas eu le temps de jouer, et bah grâce à vous, maintenant, vous allez pouvoir y jouer. Mais si j'ai pas eu le temps avant, pourquoi est-ce que j'aurais le temps maintenant d'y jouer? Enfin, je trouvais que l'argument ne tenait pas du tout. Enfin, je disais, bah oui, bah si j'ai le temps d'y jouer, je peux toujours y jouer sur Steam ou ailleurs.
Ou sur Switch,
par exemple. Enfin, voilà, je trouvais que c'était un petit peu bancal. Après, le côté éditorialisation, oui, c'est vrai que c'est ce qui manque un peu à Steam. Garder le meilleur du meilleur avec des conseils de l'équipe et tout. Enfin, toi, un peu le côté libraire. Pourquoi pas? C'est vrai que c'est ce qui manque à Steam. Donc, ils peuvent se différencier là-dessus.
À propos de Steam et des concurrents, Good Old Games a lancé une campagne qui dit « fuck DRM » et qui explique pourquoi les DRM, c'est vraiment pas bien, ce qui est pas faux, ils ont pas tort dans le principe, mais j'ai l'impression d'y voir un effort vraiment de Good Old Games de se démener pour essayer de faire comprendre leur message alors que tout le monde s'en fout. Oui. Et parce que dans les faits, tout le monde s'en fout, malheureusement, parce que les DRM sont pas suffisamment contraignants pour que les gens se rendent compte des menottes que ça représente. Je dis ça, mais moi, ça me dérange pas non plus vraiment, les DRM, si je suis honnête. Et donc, je suis pas certain que cette campagne ait beaucoup d'effet. Mais ils continuent à se démener, ce qui est bien. Il faut que quelqu'un se batte pour ça, mais...
Faut avoir un cheval de bataille pour exister. Tu
sais. C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Et le cheval de bataille de Good Old Games, c'est, nous, on n'a pas de DRM. Donc, mais voilà. C'est incroyable parce qu'en théorie, il vaudrait largement mieux acheter ces jeux sur Good Old Games que sur Steam. Parce que tu les as sans DRM, t'en fais ce que tu veux, ils sont maintenus. Enfin, aujourd'hui, avec l'application Good Old Games, c'est aussi bien que Steam, sauf que t'as pas de DRM. Et pourtant, le confort d'avoir tous mes jeux au même endroit est plus important que le fait de... Ouais. Non, mais t'as raison, ouais. En fait. Ouais. Valve est en train de lancer visiblement une plateforme de streaming. Alors il y a eu un bug qui a diffusé un test du tournoi international de Dota 2 il y a quelques jours. Ils ont dit oui, non mais c'est juste un test, machin. Peut-être qu'ils vont se lancer en concurrence de Twitch. Ce qui là aussi, moi je prends un petit peu la même approche que toi, enfin que vous en fait, avec Discord qui vend des jeux. En fait, le streaming de Steam existe déjà et il s'appelle Twitch. Toute la communauté y est, donc je ne suis pas certain que les gens aillent ailleurs. Mais...
Sinon, en parlant de Twitch, je ne sais pas si vous avez vu passer cet article qui était, il me semble, sur Bloomberg, comme quoi Amazon aimerait un peu décloisonner Twitch. Que ce soit plus seulement le repère des nerdos, mais en gros que ça devienne une plateforme vidéo beaucoup plus large à la YouTube. Ouais. Quitte à un peu à arroser des influenceurs, etc., pour qu'ils fassent des célébrités, pour qu'ils fassent des vidéos sur Twitch.
Oui, donc, tout à fait, oui. Ouais, ça me paraît.
Après, là encore, bon courage pour rattraper YouTube. Mais voilà, qui voudrait un petit peu ouvrir que Twitch soit pas seulement le rendez-vous des gamers, mais que ce soit un petit peu, voilà, que ça s'ouvre à d'autres univers.
Moi, je dirais que c'est pas impossible en théorie, mais c'est hyper compliqué à bien packager au niveau communication, au niveau message, au niveau marketing. Parce que la communauté Twitch est très particulière, très, justement, cloisonnée. Et y amener d'autres gens, ça peut... Alors, soit ça peut fonctionner, et effectivement, ils ont un potentiel pour petit à petit amener les gens sur Twitch et amener les gens de Twitch à regarder d'autres choses que du jeu, c'est possible, mais il faut y aller lentement et prudemment. Ouais. Mais s'ils se plantent, ils peuvent complètement aliéner leur communauté Twitch et en même temps donner une image déplorable de Twitch au reste du monde. Donc, c'est très délicat, quoi. Je ne sais pas si c'est...
Après, je pense qu'il ne faut pas... Enfin, aussi, leur volonté, tu vois, ils ne pensent pas à leur public, ils pensent surtout aux annonceurs. C'est,
oui, bien
regardez,
sûr,
on a une super plateforme, il n'y a pas que des nerds dessus. Il y a aussi des gens vous pouvez vendre du parfum et des je ne sais pas quoi d'autre. Enfin, tu vois, parce que c'est vrai que maintenant, même si les joueurs, ils consomment, ils achètent des choses, ce sont des êtres humains. C'est vrai que quand tu vois les pubs qu'il y a sur les plateformes gaming, on tourne toujours en rond, quoi. C'est des boissons, des pizzas, des gamers.
C'est vrai.
Va pas très loin. Alors mais que tu peux être gamer et manger du quinoa. Enfin, c'est-à-dire, c'est pas...
Tu as tout à fait raison, tout à fait. D'ailleurs, moi, je suis intolérant au gluten, donc on est pile dedans. Mais j'ai vu en plus, il y a deux jours ou une journée, une annonce, toujours de Twitch, selon laquelle Twitch Prime ne supprimera plus la pub. Alors, en théorie, leur argument, c'est que les créateurs ont besoin d'argent aussi, et visiblement, Twitch Prime ne rapporte pas assez d'argent pour les créateurs, machin. Alors, c'est certainement vrai. Mais l'autre argument encore plus important, c'est que chaque abonné Twitch Prime supprime de l'inventaire de pub, en fait. Donc, la direction qu'ils veulent prendre est celle que tu décris, Chloé, ils ont besoin d'inventaire de pub en plus. Et du coup, supprimer la suppression des pubs, réinstaurer les pubs, même pour les abonnés Twitch Prime, c'est évidemment cohérent avec cette politique, quoi.
Donc, wait and see, hein, ce moment va évoluer tout, mais de la pub.
Ouais, ça risque d'arriver, ouais. Bon, il y a toujours une option pour ne pas avoir de pub sur Twitch, mais c'est plus cher que Twitch Prime. Twitch, bah, c'est justement le Nitro, si je ne m'abuse, et c'est plus, pas exactement le même... Bah, ça ne vient pas avec l'abonnement Amazon Prime, quoi. Bon, dernière news, Steam serait en train de travailler sur un moyen de faire tourner les jeux Windows sur Linux. Alors, je ne sais pas si c'est avec Wine ou un autre, une sorte d'émulateur de fonctionnalités ou d'API Windows et DirectX sur Linux. Peu importe la manière dont ça fonctionne, si ça finit par fonctionner, ça pourrait revitaliser l'idée de box Steam qui fonctionnerait parce qu'on n'aurait pas besoin d'installer Windows pour avoir tous les jeux auxquels on veut effectivement jouer. Leur tentative précédente a été hyper handicapée par le fait qu'il n'y a pas assez de jeux sur Linux. Et donc, il fallait installer Windows pour jouer aux jeux qu'on veut. Et donc, l'intérêt d'une box console-like avec Steam est complètement annihilé. Alors que là, si on peut faire une sorte d'installation pratique de Linux qui fait tourner que les jeux, on n'a pas besoin d'acheter ou d'installer Windows, c'est plus simple, ça simplifie le truc et ça pourrait fonctionner. Bon, on a déjà donné les Steambox, on a vu ce que ça donne, mais
ouais.
Deuxième chance, peut-être que ça sera la bonne.
Non.
Je vois le doute envahir votre regard et je le comprends bien, mais peut-être.
On va être poli, bon. On ne va pas commenter.
Voilà, c'est ça.
Non, mais le marché est saturé.
C'est vrai. Bon, bah, écoutez. On arrive donc à la fin de ce passionnant épisode. Merci à tous les deux d'avoir parcouru ce petit bout de chemin vidéoludique avec moi. Avant de se quitter, j'aimerais vous donner l'opportunité de nous dire où on peut vous retrouver sur l'Internet. Commençons avec Chloé. Est-ce que tu as un compte Twitter, des activités internetiennes où les auditeurs peuvent te retrouver ?
Alors, j'ai un compte Twitter, donc c'est w_Chloé. Et sinon, bah, vous pouvez me retrouver sur le figaro.fr, deux rubriques différentes, rubrique technologie et rubrique média.
Parfait. Et je mettrai les liens vers le compte Twitter dans les notes de l'émission, comme toujours. Aymeric Lallet, on connaît son compte Twitter aussi, c'est Aymeric Lallet,
tout
simplement.
Tout à fait, c'est ça.
Où est-ce qu'on te retrouve d'autres également ?
Tu peux me retrouver sur les trois sites dont je t'ai parlé. Aussi un petit peu sur Jeux Actu en ce moment.
Très bien, donc. Voilà. IGN, Millennium, jeuxvideo.com, enfin tout le groupe, il est présent partout, il laisse ses empreintes partout.
C'est ça, mes petits doigts velus.
Voilà, merci beaucoup à tous les deux. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook, Instagram. Si vous voulez des commentaires sur les jeux auxquels je joue ou des photos du plus beau bébé du monde, c'est les deux sont sur tous ces comptes-là. Et si vous voulez commenter tout ce qu'on a dit, vous pouvez venir sur frenchspin.fr où il y aura les notes de l'émission et vous pouvez commenter si on a dit des choses intelligentes, vous pouvez nous féliciter. Si on a dit des choses un petit peu moins intelligente, vous pouvez nous le mentionner également, évidemment. Ça nous fait toujours plaisir de discuter avec vous. On vous remercie donc de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une quinzaine de jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous.
Salut.
Ciao.